Dimanche midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRTV.
Questions autour d'un média aux multiples facettes. Doit-on tout dire de tout le monde à tout le monde et peu importe la manière et le contexte, au nom de la liberté de dire et de communiquer? Les réseaux sociaux, médias de socialisation par essence, sont-ils en passe de devenir des canaux de diffusion des germes d'associabilité? Dimanche midi ouvre le débat. Les dérives enregistrées sur la toile ces derniers mois sonnent visiblement l'urgence d'une régulation et le gouvernement de la République tire la sonnette d'alarme. Dans le dossier de la rédaction, le grand reportage de Serge Pout sur les multiples dérapages observés sur la toile et leurs effets directs ou indirects sur la société. Les regards d'experts captés par Mathieu Kembo autour des procédures et de l'arsenal juridico-légal applicable au Cameroun et le commentaire de la rédaction porté ce dimanche par Evelyne Owonaïsoba.
Dimanche midi.
Mais comment s'approprier les vertus des réseaux sociaux dans ce contexte de globalisation? Comment éduquer les masses à un usage plus sain et plus responsable de ces outils de socialisation? Question à un spécialiste des systèmes d'information et de communication. Face à la rédaction ce dimanche, le professeur Emmanuel Tonnier, polytechnicien, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Merci d'être en notre compagnie. Michel Abanda et Bogas Oren Joyoum me rejoindront dans ce studio vers 12h30 pour une demi-heure d'échange avec vous. Les rendez-vous dominicaux de ce 22 janvier 2017. DM Sport à 13h10 avec les yeux de Samuel Bion dans la tanière des Lions Indomptables à Libreville au Gabon. 24 heures avant le duel de fauves qui va mettre aux prises Panthères du Gabon et Lions du Cameroun, en quête chacun d'un ticket pour les quarts de finale de la CAN 2017. Le bouquet DM à 13h26 avec Cyril Kingembepe qui revient sur l'offensive médiatique du gouvernement de la République dans la gestion de la crise anglophone. L'actu média avait 13h30 avec Nicole Doudou qui vous propose une relecture de la mise en garde du président du Conseil national de la communication au sujet du traitement de l'information relative à la crise anglophone. La balade dominicale dès 13h35 se veut une incursion dans l'industrie des cérémonies funéraires. Et le duel de dimanche midi à 13h45, face à face sous l'arbitrage de Berthe Mbala, Joseph Owonakono, député de la Nation, président du comité régional de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public, et Gilbert Poubène, entrepreneur. Objet du duel, les freins à la bonne exécution du budget d'investissement public. Et comme c'est désormais le cas, votre avis est bien sûr très attendu. Dépouillement du courrier du dimanche vers la fin de ce programme avec Djamo Rahman.
Dimanche midi, une présentation de Madeleine Sopikoto.
À tout de suite.
Vous écoutez Dimanche midi sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Faut-il parler d'un péril? Les réseaux sociaux sont-ils le ver dans le fruit? En tout cas, les dérives liées à leur utilisation interpellent les gouvernements au Cameroun et dans le monde. Il faut absolument réglementer l'usage d'un outil né de la technologie pour communiquer et échanger en temps réel. Mais voilà qu'il est clair qu'en plus de jeter des ponts entre communautés virtuelles, les réseaux sociaux sont devenus une arme de destruction massive. L'urgence aujourd'hui est d'en limiter les effets dévastateurs, à défaut bien sûr de les anéantir.
Le commentaire de la rédaction.
Le commentaire de la rédaction ce dimanche porte la signature d'Evelyne Owonaï-Somba.
Limiter les dégâts autant que possible pour tenter de contenir le raz-de-marée des réseaux sociaux, le Cameroun semble enfin prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir. Le ministère des Postes et Télécommunications est monté au créneau ces derniers jours en rappelant via des SMS aux Camerounais que la publication et la diffusion de fausses nouvelles au moyen d'un média social est punie par le code pénal. Une mise en garde bien molle encore au vu des ravages causés. C'est un scénario classique en effet. La réglementation court toujours après les innovations. Et dans le domaine des technologies, c'est encore plus vrai. L'explosion des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Periscope et les autres, fait suite à celle du téléphone mobile intelligent. Le smartphone et ses nouvelles applications a libéré la parole et redimensionné le schéma de la communication de Laswell. C'est le règne du clavier tout-puissant et omniprésent. Depuis l'obscurité de sa chambre, on peut donc ainsi déclencher une révolution planétaire. On a du bout des doigts une capacité de mobilisation exponentielle des masses au mépris des frontières physiques, sociales et idéologiques. Les législateurs, sous tous les cieux, n'ont pas tenu le rythme. Les plus proactifs ont réussi à la hâte à imposer des filtres et un régime de sanctions qui reste perfectible. On sait que les réseaux sociaux sont devenus la meilleure agence de recrutement des candidats au djihad qui nourrissent le terrorisme à travers le monde. Les événements récents au Cameroun ont dévoilé également que néo-révolutionnaires et sécessionnistes de la dernière heure en ont fait un incontournable allié de propagande et de diffusion de la terreur. Le live streaming, par exemple, a fait prospérer des vidéos souvent truquées. Quelques-uns des meneurs, sans doute grisés par l'illusion d'une impossible géolocalisation, se sont fendus de discours pyromanes. L'urgence d'agir presse les gouvernants à aller plus loin que de simples imprécations. Au Cameroun, la loi du 21 décembre 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité prévoit des dispositions répressives. Il ne serait pas inutile de les appliquer enfin. Parallèlement, des vraies campagnes de sensibilisation pourraient aider la masse encore ignorante à comprendre comment lire, écrire, agir et interagir pour ne pas devenir, malgré soi, victime ou bourreau de ces réseaux sociaux. En décidant par exemple de partager une vidéo, une photo ou un texte sur Facebook ou WhatsApp, on engage bel et bien sa responsabilité et on peut être appelé à en répondre devant la loi. Et la météo par ici indique que déjà s'amoncelle de gros nuages au-dessus des cyberdélinquants.
On l'aura compris, les réseaux sociaux préoccupent donc fortement. Espace d'expression sans limite, ces nouveaux médias sont devenus le désert de tous les fantasmes. Sur ces plateformes, les langues se délient à la démesure jusqu'à jeter de l'huile au feu des théâtres sociopolitiques. Le traitement des épisodes grinçants de Bamenda et Bouya, le drame d'Iseka, ont montré jusqu'où le traitement de l'actualité par des mains peu sûres peut conduire. L'opinion commune s'en montre indignée, comme vous allez l'entendre dans ce grand reportage réalisé à Douala par Serge Pout.
L'irruption d'Internet charrie bien des espoirs sur la planète. Dans le wagon des nouveautés, la dématérialisation des frontières donne place à ce que les observateurs ont appelé le sixième continent. Une vague qui s'est très vite montrée sous un jour favorable en termes d'opportunités et de profits sans mesure. Mais si la toile mondiale scintille sur le registre du profit, elle perd de sa superbe en dégonflant les enthousiasmes côté éthique. Les bulles d'information qu'elle distille ont fini par devenir des châteaux de sable, des châteaux de larmes. Marie-Louise est noire de colère à propos des dérives qui inondent les réseaux sociaux.
Vraiment, les images que les gens diffusent, C'est pas du tout normal. M'a envoyé la photo de la lionne là qui a les cheveux teintés. Kingala Morte m'a envoyé sa photo sur le lit étant en sous-vêtement. Bon, je sais pas comment les gens ont pu filmer ça. J'ai reçu ces images là, je les ai dans mon téléphone. Donc vraiment, c'est très choquant. Pendant que vous êtes avec des gens, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas qu'ils ont peut-être des appareils pour vous filmer. Je ne sais même pas, je suis choquée parce que c'est des images. On ne peut pas envoyer la photo de Ngala Motte avec des sous-vêtements. Ce n'est pas normal. Les images du désert, je mets ici, nues, dans mon téléphone, je les ai. C'est choquant. Je te méfie même de ton propre mari. Le téléphone n'est plus pour recevoir les appels, c'est déjà pour propager des mauvaises images.
Facebook, Twitter et autres plateformes virtuelles sont devenues des hauts lieux du vice. La haute technologie offre aux pervers la possibilité de sophistiquer l'instinct du voyeurisme au point où on a l'impression que l'œil de Judas est partout. André-Sylvain Boulet, enseignant au Collège Liberman.
On ne sait plus qui est qui. Tu as un ami qui viendra te rendre visite, tu donneras la permission de regarder ton intimité, mais qui se servira de ça pour diffuser ses images partout. Aujourd'hui, il faut même avoir peur de tout le monde. Aujourd'hui, on ne respecte plus l'intimité, c'est le désordre.
Candace Nkodbisek.
Il faut s'assurer que l'on dise et fasse des choses que l'on puisse assumer. C'est le seul moyen de se protéger. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer quelque chose, gardez-le dans votre cœur, point barre. Ou alors, dites-le à votre mère ou à votre frère, quelqu'un à qui vous avez confiance, et encore. C'est la même chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sous couvert d'anonymat, les gens, voilà, c'est le phénomène du troll hein, qui s'en va. On est avec un faux nom, dire des horreurs sur quelqu'un, etc., etc. Sauf qu'il n'y a plus d'anonymat finalement. On sait trouver qui est qui.
La moisson de ces nouveaux médias est riche de grains et d'ivraies, plus d'ivraies que de vrais. Constate avec amertume les mordus du web, ceux de la génération Android. Étienne Tala.
Publier une information parlant d'un jeune garçon âgé de 15 ans qui a arraché le cœur d'un petit garçon de 5 ans. La personne qui m'a envoyé cette photo a signé Bamenda. Et je me suis donc rendu compte, après analyse aussi, que cette information date de près d'un an. J'ai reçu une vidéo montrant des jeunes garçons de moins de la vingtaine en train de tabasser les petits garçons allant à l'école. Et je crois que c'est une dame, une maîtresse qui a arraché le petit garçon qu'on était en train de fesser. Donc cela contribue à nous faire comprendre que apparemment il y a des personnes qui sont en train de manipuler l'information sur Internet.
Michael Tadi.
On observait un monsieur qui s'est transformé en bois et avait les trois enfants dans la ville de Garoua. Et j'ai aussi observé une autre vidéo qui montrait un enseignant qui se faisait battre par des éléments de la force de l'ordre. Mais après enquête personnelle, j'ai constaté que c'était des vidéos erronées. Au sorti de là, j'ai compris que l'outil informatique, il faut se méfier.
Les arguties à prétention journalistique qu'affichent les réseaux sociaux sont trahis par la dérive immorale, malgré le lexique honteux qu'utilisent les rédacteurs des posts et tweets. Dénonce André-Sylvain Boulet, enseignant au Collège Liberman.
Personnellement, j'étais très choqué sur le sujet du Koumatéket, par exemple. Malgré le rapport de l'Ordre des médecins, il y a des Camerounais, des hommes de médias même, qui sont restés sceptiques.
Pour l'encadreur, le web est une mauvaise cachette des faibles.
Tous ceux qui ont échoué, qui ont des reproches à se faire, se cachent derrière les réseaux sociaux. La vérité aujourd'hui, c'est que ces réseaux sociaux ont pris de la place au détriment de la recherche, au détriment de la vérité, au détriment des bonnes choses qui permettent à ces Camerounais d'évoluer. Les réseaux sociaux sont devenus dangereux. Des images de vol et de violence. Naturellement, du mensonge aussi.
D'autres voix persiflent les comportements irresponsables des internautes qui s'offrent la gloire facile de médire et de saper la réputation du Cameroun. C'est l'avis de Candace Nkodbisek, patronne de start-up, un avis donné à hauteur d'espère.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nos pays n'ont pas nécessairement la cote? Ce n'est pas parce qu'on a le monopole des accidents, du terrorisme, des décès en hôpitaux, etc. C'est parce qu'on n'organise pas notre communication. On ne sait pas faire le storytelling à l'américaine. On ne sait pas montrer ce qu'on a de beau et communiquer de manière plus pudique sur ce qui ne va pas. On peut parler d'un drame qui a eu lieu dans un hôpital sans voir des femmes enceintes éventrées sur le sol. On peut parler d'un accident dramatique et de croire du fait du nombre de morts qu'effectivement il y a eu un nombre assez effarant de morts sans exposer les corps comme ils ont été faits. Et je reviens une fois de plus sur les grands attentats qu'il y a eu aux États-Unis ou en France dans les quelques années qui ont précédé. On n'a pas vu cette déferlante-là et c'est ce qui fait que ça reste des terres d'opportunités, de rêves et d'Eldorado pour nous, quand de l'autre côté, on est le pays des drames sanglants, de la famine, des machins, etc. Parce que nous-mêmes mettons dehors des images qui donne l'impression qu'il n'y a que ça qui se passe sur nous. On est plus prompt à partager des images glauques et sanglantes qu'à partager des success stories de cardiopathes, qu'à partager des femmes courageuses africaines qui, malgré un mari absent, arrivent à faire vivre des foyers, etc. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait nous inculquer une culture positive du respect d'autrui, du respect de soi-même et du respect de la dignité de notre pays au Cuba.
Vigoureuse protestation également dans la classe politique. Si Edouard Fauchivé du RDPC constate que les réseaux sociaux sont importants, c'est pour regretter tout de suite la permissivité qui y a cours.
Quand on montre Bamenda les rues complètement vides, où on montre comment les policiers sont en train de jouer le rôle d'encadrement de sécurité, c'est pour exciter plus la population. Quand j'ai vu ce jeune élève qui a été tabassé parce qu'il a porté au-dessus de sa tenue un tricot et ce gars ne voulait qu'aller à l'école et qu'on le tabasse parce qu'il a triché en essayant de cacher la tenue, et ceux qui balancent, c'est pour faire comprendre aux autres quoi ? Que l'école est morte et que personne ne doit aller à l'école. Mais en réalité, ce jeune Camerounais qui allait à l'école, il a eu quoi ? Entre-temps, en balançant ça, et que les écoles anglophones dans les zones franco des 8 autres provinces fréquentent, mais qui paient, qui gagnent aujourd'hui.
Il se dépêche de pointer la mystérieuse fiction d'avant l'accident du train des ECA.
L'image de l'accident des ECA m'a beaucoup choqué. Je vous assure qu'à 9h30, j'avais au niveau de mon table l'image d'un accident ferroviaire, alors que l'accident a eu lieu vers 13h. L'État, dans le cadre maintenant de ses services de sécurité, devait comprendre qu'il y a une main invisible.
La médisance et autres calamités du genre n'affectent pas seulement l'image du pays. Les conséquences sont bien dramatiques pour les individus et les familles, relève Sambaka de l'Union démocratique du Cameroun.
Les conséquences sont graves parce qu'il y a des gens qui prennent pour parole d'évangile. Ça peut déformer les enfants, ça peut les amener à devenir, des rebelles ou des extrémistes.
Les clochettes de la vigilance ne tintent plus seulement, elles grondent au vu du danger que constitue la toile mondiale. Et l'urgence de réguler, d'encadrer cet instrument semble s'imposer comme une évidence. Marie-Louise Nyabanda.
Que le gouvernement fasse vraiment quelque chose pour essayer de limiter ces dégâts-là. Par exemple, je suis en train de passer un coup de fil, quelque part ça se voit. Ce que je suis en train de faire, on devrait voir, c'est un peu comme des satellites pour un peu essayer de limiter. Parce que si c'est seulement avec la bouche, dit que les policiers, ça ne peut pas, ils ne peuvent pas arrêter.
Edouard Fauchivé.
C'est la conséquence de tout ce qui est évolution, développement. Et un développement, disons, non encadré. Il faudrait que l'État puisse jouer son rôle de régulateur. Il revient donc au gouvernement de faire comprendre aux uns aux autres que, bien qu'on ait un téléphone en main, il y a des limites.
Quelle forme devrait prendre cet encadrement ? Candace Côte-Bissec est d'avis que l'État doit se faire pédagogue d'éducation civique.
Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des campagnes d'éducation, de sensibilisation, de se retourner vers des gens qui comprennent ces médias, vers des gens qui comprennent le leadership, vers des gens qui comprennent ne serait-ce que la communication, le partage d'énergie positive, que sais-je, et travailler avec ces personnes-là pour encourager un assainissement de notre communication en ligne et hors ligne.
Mais les pouvoirs publics auraient un train de retard sur la communication à bonne vitesse par le créneau virtuel, remarque Sambaka de l'IDC.
Très souvent, nous sommes à l'affût de la réaction du gouvernement, mais tout le temps, on constate que ça tarde à venir. Et quand ça tarde à venir, ça veut dire que c'est eux qui ne sont pas proactifs. Il faut toujours attendre que les réseaux sociaux nous balancent des informations pour réagir bien longtemps après. C'est la réactivité qui pose problème.
Une question de vitesse de la réaction.
Absolument. La vitesse aujourd'hui, vous savez, vous avez une boussole. Si vous n'avez pas à côté une horloge, ça ne vaut pas la peine.
Investir sur le web, c'est aussi la préconisation de l'honorable Fauchivé, qui se rappelle avoir été rétif à l'informatique il y a 35 ans.
Je suis de ceux qui, en 1982, à l'université unique de Yaoundé, étaient parmi les étudiants qui avaient dit hors de l'université au professeur Obelin, parce qu'il était venu nous parler de l'informatique comme l'avenir de tous les pays où l'égalité devait se faire sentir. Parce qu'il nous avait dit qu'on pouvait plus s'aligner pour s'inscrire et que l'informatique pouvait résoudre. Vous vous rendez compte, en 1982, ce qu'on a dit au professeur Belen, nous l'avons dit hors de l'université parce que pour nous, c'était impossible. Et que devant moi, aujourd'hui, j'ai l'informatique pour travailler. Je suis parmi ceux qui disent au professeur Belen que nous avons une courte vue. Déjà, le président de la République a dit de s'engager vers l'économie numérique.
Les extrapolations qui secouent le web et soulève des vagues de dénonciation amène l'État camerounais à structurer une réponse à la hauteur du mal. Une réponse devant combiner vision, stratégie et surtout des ressources humaines dédiées. Douala, Serge Pout pour Dimanche Midi.
Merci Serge. Il faut dire que dans la crise que traversent actuellement les régions anglophones du Cameroun, les réseaux sociaux ont parfois joué un rôle très négatif, suscitant l'indignation des pouvoirs publics et la réprobation des populations. Comment comprendre la place de plus en plus importante qu'occupe la toile dans la crise actuelle et pourquoi en même temps les populations ont-elles tendance à croire à tout ce qui en émane? Quelles sont les sanctions auxquelles elles s'exposent en cas d'infraction sur ces réseaux? Mathieu Kemgo a tendu son micro à un membre du gouvernement, à un sociologue et à un juriste.
Dimanche midi, regard d'experts.
Depuis le jeudi 12 janvier 2017, les détenteurs de téléphones mobiles reçoivent des messages les invitant à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À l'initiative des 10 messages, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliquin.
Ces messages font partie de la campagne de sensibilisation citoyenne à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Des esprits malveillants utilisent ces réseaux sociaux pour propager des messages faux et de nature à créer une psychose.
Comment comprendre que les réseaux sociaux soient devenus l'un des moyens favoris par lesquels les activistes de la crise actuelle passent leur message? Professeur Claude Abbé, sociologue.
Ces réseaux sociaux-là sont devenus aujourd'hui des voies de contournement pour arriver à tenir une parole qu'on sait difficile à être contrôlée et régulée par les pouvoirs publics. En les utilisant, ces meneurs-là savent que les populations consomment à satiété ces moyens de communication-là et que ça coûte moins cher. La haine est très facile à distiller dans ce genre de situation-là.
Donc on voit aussi en ce succès des réseaux sociaux l'envie des internautes d'écouter un discours autre que celui des gouvernants. La vérité ne serait pas dans la bouche des officiels, croit-on.
Il y a une tendance au Cameroun aujourd'hui à penser que le discours qui est tenu par les pouvoirs publics est uniquement un discours visant à venir légitimer les points de vue du pouvoir. Comme dans ces réseaux sociaux, on tient très souvent des points de vue qui sont alternatifs par rapport à ceux des pouvoirs publics. Du coup, il y a un nouveau pôle de vérité qui est devenu les réseaux sociaux.
À la différence que très souvent, les informations diffusées sur la toile n'ont subi aucune vérification. Conséquence, une fausse information a vite fait de créer des troubles. D'où la sortie du ministre des Postes et Télécommunications pour rappeler l'arsenal juridique en vigueur afin que nul n'en ignore.
Le Cameroun fait partie des pays qui ont des textes qui réglementent le cyberespace. Il se trouve qu'au Cameroun, il n'était pas particulièrement appliqué, mais ce que nous vivons aujourd'hui dans la propagation des informations fausses, où on vous envoie un message, on dit envoyez-le à d'autres personnes. Il faudrait donc que vous puissiez justifier que ce jour-là, à 11h, à midi, à 13h ou à 14h, j'étais quelque part. C'est juste un rappel de ce qui existe pour que demain, quand ils seront interpellés, qu'ils ne disent pas qu'ils ne le savaient pas.
C'est la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité au Cameroun qui punit les infractions commises sur le cyberespace, notamment en son article 78. Maître Balbin Manga, spécialiste du droit sur la cybercriminalité.
Cet article dit clairement que est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement celui qui publie ou propage par voie de communication électronique ou d'un système d'information une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de la véracité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de la dite nouvelle. La peine prévue à l'alinéa premier ci-dessous est doublée lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.
Des exemples précis d'infractions à cette loi existent.
Lorsqu'il lynche par exemple ou alors qu'il menace un élève en tenue, ils prennent la peine de filmer et de diffuser pour dissuader ceux qui veulent forcer pour aller à l'école, leur dit voilà le traitement qu'on va vous réserver. Donc je pense que ça rentre dans l'article 78 dont on parlait tout à l'heure.
Que faire pour ne pas tomber sous le coup de la loi lorsque l'on reçoit de telles images?
Si tu dénonces, tu as fait un acte citoyen qui permet que la police remonte vers la personne. Si tu ne dénonces pas et que tu passes ton temps à ajouter peut-être peut-être d'autres informations là-dessus et à transférer. Tu te rends complice, puisque si l'information s'arrête au téléphone de celui qui l'a envoyé, elle ne sera pas diffusée.
La loi existe, mais son application sur le terrain rencontrerait quelques difficultés, selon Maître Manga.
La difficulté qu'on a actuellement, c'est que la police n'est pas outillée pour pouvoir identifier l'adresse IP à partir de laquelle toutes ces informations partent. L'Agence de technologie de l'information et de la communication antique est là, elle essaye de travailler avec la police, mais il faut que chacun y mette du sien. Je pense que si les policiers commencent à saisir des téléphones pour essayer de voir le genre de message qu'il y a à l'intérieur, ça va changer.
Mais pour le sociologue Claude Abbé, priorité doit être accordée à la formation des populations, à la bonne utilisation de la toile.
Il y a une éducation qui doit être faite en amont, de manière à ce que les gens sachent que dans les réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement toujours une information qui aurait subi un traitement comme dans les médias classiques. À partir du moment où les gens sauront qu'il s'agit certes de médias, mais d'un nouveau type de médias qui ne rencontre pas les précautions de quête de la vérité, il me semble qu'il y aura un moindre attachement vis-à-vis des vérités qui sont déployées à l'intérieur des réseaux sociaux.
Avec ces précautions, les pouvoirs publics ne seraient pas obligés de restreindre l'accès au cyberespace, surtout qu'ils ont pour rôle de le promouvoir. Minette Libom Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications.
Nous disons, Camerounais, ne venez pas brouiller cet élan encouragé par la plus haute autorité. Il faut une utilisation responsable. Ce n'est pas seulement propre au Cameroun, même dans d'autres pays. Mais nous ne commençons pas par ce qui est négatif. Nous sommes là pour faire la promotion de l'économie numérique.
Les réseaux sociaux aident à connecter le monde. Ils ne devraient pas en être une source de déstabilisation.
Dimanche midi, face à la rédaction.
Docteur d'État et sciences de l'Institut National Polytechnique de Toulouse en 1987, officier des Palmes académiques de la République française, membre de l'Académie des sciences du Cameroun, vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de Yaoundé 1. Il est professeur titulaire des universités en poste à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Depuis 2017, il coordonne la mise en place du Master professionnel et télécommunications en formation à distance et depuis 2010, la mise en place du Master professionnel en sécurité des systèmes d'information et de communication en formation à distance. Depuis la même époque, il est coordonnateur des universités virtuelles du projet panafricain des services en ligne hébergé par l'Université de Yaoundé 1. Il est aussi auteur et co-auteur de 170 publications scientifiques, d'ailleurs téléchargeables, co-auteur de 8 livres scientifiques, mais aussi auteur de publications relativement aux réseaux sociaux. Le professeur Emmanuel Tonnier est face à la rédaction ce dimanche. Bonjour une fois de plus, professeur Emmanuel Tonnier.
Bonjour madame.
À quoi renvoie précisément la notion de réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux sont des logiciels de socialisation. Ils permettent aux utilisateurs de s'exprimer dans un cadre créé par d'autres. Ces logiciels donnent à chacun, grâce aux annotations et à l'intégration des commentaires, l'opportunité de se faire entendre. Enfin, on peut dire que la possibilité de donner son opinion dans un cadre créé par d'autres, de modifier et de redistribuer des rôles dans le contrôle des messages et des informations, c'est aussi une autre possibilité des réseaux sociaux.
Alors, vu comme ça, les réseaux sociaux n'ont au départ que des vertus. Quel est de votre point de vue la problématique de ces réseaux sociaux aujourd'hui?
Les réseaux sociaux, vous l'avez déjà dit, ont des vertus. Mais ils sont, comme la plupart des outils électroniques, la création d'un monde virtuel qui est, à plusieurs égards, à l'image du monde réel. Or, vous le savez, dans le monde réel, les outils de socialisation existent aussi et ont des dérives. Par conséquent, les outils de socialisation numérique pourraient, dans certains cas, amplifier les dérives autant qu'ils savent amplifier des vertus.
Alors nous parlerons de tout cela tout à l'heure. Merci une fois de plus d'être face à la rédaction ce dimanche, professeur. Vous êtes, nous l'avons dit, polytechnicien, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1. Merci de nous accompagner donc pour le décryptage de cette actualité qui, on va le dire, défraie la chronique. Les dérives observées sur la toile invitent, selon de nombreux observateurs, à une réflexion profonde et dévoile en même temps la nécessité de reprendre en main ce secteur par les autorités camerounaises. Avec moi dans ce studio pour porter la voix de la rédaction, Michel Abanda, journaliste, chef service médias, culture et loisirs. Bonjour Michel.
Bonjour. Bonjour Madeleine.
Et Bogas Orin Djoyoum, intervieweur invité, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes journaliste, spécialiste des TIC, ancien chroniqueur au quotidien Le Jour et sur le site d'information économique Ecofin. Mais vous êtes surtout directeur général du cabinet ICT Strategies, directeur de publication du site d'information spécialisé TIC MAC. Merci pour votre disponibilité, donc, chers confrères. Je vous invite, messieurs, à aborder tout de suite le premier volet de cet échange, dérive sur la toile, état des lieux et identification des auteurs. Michel Abanda, je vous laisse la première salve de cet entretien.
Merci Madeleine. Bonjour professeur Emmanuel Tenier.
Bonjour.
Plusieurs mauvaises publications sont dénoncées sur la toile. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Et certains experts comme vous pensent même que la cote d'alerte est déjà atteinte. Les réseaux sociaux seraient-ils dès lors devenus sociaux?
Non, les réseaux sociaux gardent leur caractère d'outil de socialisation, mais qui dit socialisation peut comprendre une socialisation de bonnes mœurs comme une socialisation de mœurs dépravées. Il se trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont amplifié plus les dérives que les vertus. Il est donc peut-être temps de revoir comment ces réseaux sociaux pourraient plutôt amplifier les vertus et un peu moins les dérives.
Toujours dans le volet des dérives, professeur, on constate qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a pratiquement plus de vie privée, ce qui représente un basculement de paradigme dans la manière même de s'informer et, au cas échéant, informer. Un nouvel ordre mondial de l'information a-t-il vu le jour?
Il est important de rappeler que les outils de socialisation numérique sont physiquement dans des serveurs, ont été mis en place par des personnes. Par conséquent, il est tout à fait possible, une fois des constats faits de dérives inacceptables, de revenir aux sources de création de ces outils de socialisation numérique et d'organiser la sécurisation, le filtrage nécessaire de toutes les informations qui seraient à tendance désordre ou trouble à l'ordre public.
Alors, mes professeurs, on se serait attendu à ce que l'une des missions de ces réseaux sociaux, qui est de réduire les distances, induise même in fine plus de convivialité, surtout au sein d'une population camerounaise et africaine qui est avant tout réputée pour son respect des valeurs.
Écoutez, là, c'est une question sociologique. Il peut être difficile à un spécialiste des télécommunications d'y apporter un éclairage objectif. Je ne saurais pas vous répondre pourquoi les gens utilisent la machette pour faire un champ et d'autres utilisent cette machette-là pour tuer. Mais je préfère vous dire et vous rassurer que ces mêmes technologies sont utilisées à bon escient par ailleurs. On ne peut pas imaginer aujourd'hui des formations dématérialisées, des formations en ligne, sans recourir à ces outils sociaux. On peut donc plutôt encourager que des efforts soient faits pour que ces outils, qui sont bel et bien de socialisation, gardent un caractère que vous avez souhaité, de bonne vie sociale entre, par exemple, Camerounais qui, normalement, c'est dans leur habitude, dans la vie réelle.
Boga Sorin.
Professeur, dans la logique que vous évoquez tout à l'heure sur l'amplification des vertus des réseaux sociaux, on aimerait vous poser la question de savoir si vous êtes présent sur les réseaux sociaux.
Oui, moi je suis présent sur les réseaux sociaux plus à travers des outils éducatifs.
C'est-à-dire ?
Si vous allez à ResearchGate, vous allez me trouver. Il s'agit d'un réseau social de chercheurs à travers le monde et vous allez voir que je suis bien placé. Cela me permet de partager mes publications et d'avoir l'impact de mes publications. Si vous allez sur les sites de formation à distance hébergés par l'Agence universitaire de la francophonie, je suis responsable de deux formations en ligne. Et dans ces formations en ligne, nous avons eu à développer des wikis, une page Facebook, un blog, l'utilisation d'Audacity et enfin de CMAP pour créer cette socialisation entre nos étudiants et mieux organiser la formation.
Alors, professeur, vous avez évoqué Facebook dans vos réseaux spécialisés qui, il faut l'avouer, sont destinés à des personnes précises.
Oui.
Au Cameroun, on le sait très bien, c'est ce qui fait problème. Il y a environ 2 millions de Camerounais sur les réseaux sociaux. Et l'on constate qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs administrations qui ne sont pas disponibles sur les réseaux sociaux. Par exemple, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que sur la page Facebook de l'université de Yaoundé 1, il y avait des vieilles informations. Ne pensez-vous pas que dans la logique d'amplification des vertus, dans la logique de propagation de la bonne information, il est important de communiquer également sur ces réseaux sociaux pour éviter ces dérives qu'on a aujourd'hui?
Oui, il est important d'être présent dans ces réseaux sociaux. On peut faire le choix de l'être dans des réseaux d'information générale, mais on peut aussi faire le choix d'être dans des réseaux sociaux thématique professionnelle. Sachez que c'est du travail. Hein. C'est peut-être évident à croire qu'on pourrait animer des réseaux sociaux de type informationnel sur l'institution, c'est souhaitable.
Alors, il y a comme un dédoublement de la personnalité de ceux qui fréquentent précisément ces réseaux sociaux. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, les dérives qu'on a observées ces dernières semaines, un dédoublement de la personnalité des Camerounais qui ont des attitudes différentes selon qu'ils vivent ici au Cameroun qu'à l'étranger. Est-ce que vous avez essayé de comprendre ce phénomène?
Le comportement que vous signalez, des compatriotes hors de notre pays a toujours à avoir tendance à dire du mal de leur pays est fort connu. Certains d'entre nous qui ont eu l'occasion de travailler dans les ambassades du Cameroun à l'étranger peuvent en témoigner. Alors il se trouve simplement aujourd'hui que les réseaux sociaux, amplificateurs des dérives, leur servent de tribune. Mais c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres qu'on peut retrouver leurs traces. Et en notant que c'est des mauvaises ou des nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent être retrouvés. Parce que ce que les outils numériques ont comme avantage, c'est de garder la traçabilité du circuit de l'information.
Michel Abanda.
Y compris ceux-là qui ont des profils masqués.
Oui, même ces profils masqués partent des équipements qui ont des numéros d'identification. En tout état de cause, il faudra bien demander à certains responsables qui sont propriétaires de tel ou tel équipement de ne plus diffuser ce genre d'informations.
Pour réguler ce secteur, l'État a pris un certain nombre de dispositions. Il y a notamment le code pénal qui condamne ces mauvaises publications. Il y a aussi la loi de 2010. Mais pour revenir à la notion de internautes masqués, comment peut-on vraiment combattre ce phénomène alors que l'ennemi avance à visage difficile à repérer?
Les masques sont, comme encore une fois dans la réalité, n'est-ce pas? Des personnes masquées dans la vie réelle ont aussi des empreintes. Il y a des recherches en cybercriminalité qui peuvent recourir à ces empreintes-là. Parmi les empreintes, ce sont les machines utilisées. Parce que la personne masquée est simplement passée
pas des machines intermédiaires pour qu'on n'identifie pas sa machine. En fait, ce masquage, c'est cela. Mais pour les personnes qui souhaitent retrouver la personne masquée, il suffit de suivre l'empreinte, c'est-à-dire les différents équipements par lesquels il est passé pour avoir une chance de le retrouver.
Permettez-moi de prolonger la question de Bogas Sourin et de Michel Abanda. Les personnes qui n'ont pas la chance comme Bogas d'être spécialiste de ces questions, nos auditeurs, moi-même, est-ce que vous êtes en train de dire, professeur, que ceux qui ont été auteurs, par exemple, des messages qui appelaient à la haine, qui appelaient à la violence pendant la crise que le Cameroun connaît en ce moment, est-ce que vous êtes en train de dire que ces personnes peuvent être clairement identifiées et donc, s'il y a arrestation, on ne pourrait pas soupçonner le gouvernement de procéder à des arrestations arbitraires?
Oui, non, je peux être affirmatif. Mais vous savez, comme pour toute investigation, il faut mettre les moyens. Il ne suffit pas de croire que je vais entrer dans le réseau, arriver au niveau du premier site, trouver le coupable. Il faut mettre les moyens pour l'investigation. Et lorsqu'on a mis les moyens qu'il faut, on arrivera.
La question, c'est est-ce que la technologie aujourd'hui permet d'y arriver?
Oui, la technologie permet d'y arriver. Sinon, vous l'avez suivi, plusieurs attentats terroristes ont été évités en Occident parce qu'on a pu suivre les terroristes dans leur usage des réseaux sociaux. Mais je vous dis encore une fois, il faut avoir les moyens de la bonne investigation. Donc on sera capable, lorsque on a pu retrouver les coupables, de montrer les preuves de leur forfait.
Le professeur, dans la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, il est indiqué que les fournisseurs de contenu des réseaux de télécommunication électronique doivent stocker les informations et les données des utilisateurs pendant 10 ans. Mm-hmm. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre contexte, il est possible que ces fournisseurs de services électroniques puissent stocker ces informations, hein?
Ils doivent. Le problème n'est pas, est-il possible? Ils doivent, puisque c'est une exigence d'une loi. Et nous devons respecter la loi.
Et quelle est, d'après vous, l'ambition du régulateur en mettant en place une telle disposition?
C'est toujours pour avoir la traçabilité des informations en cas de dérive. De même qu'il est conseillé de classifier un certain nombre de documents. Fort du stockage des informations, il est toujours possible de retrouver les auteurs de telle ou telle information qui serait la cause d'une dérive.
La loi portant répression des actes de terrorisme indique en son article 9 que est puni d'un emprisonnement de 20 ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une déclaration mensongère ou une déclaration calomnieuse. Est-ce que 20 ans d'emprisonnement pour une déclaration mensongère sur un réseau social est applicable? Parce qu'on a suivi la ministre des Postes et Télécommunications dire que cette loi régissant les affaires liées au terrorisme pourrait être appliquée à ceux-là qui propagent des informations mensongères sur les réseaux sociaux.
Vous savez, donner par exemple les conséquences d'une information mensongère, et vous comprendrez que 20 ans, c'est peu. Si l'information mensongère a entraîné le suicide de quelqu'un, n'est-ce pas évident de condamner l'auteur à peut-être même plus de 20 ans, n'est-ce pas? Si l'information mensongère a entraîné, par exemple, une catastrophe, que sais-je, ferroviaire ou d'un moyen de transport, ça paraît, me semble-t-il, normal que le coupable soit bel et bien puni pour une telle durée d'emprisonnement.
Mais professeur, sur ces réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui profèrent des injures contre des personnalités, contre leurs amis, contre leurs camarades. Mais on constate que la loi sur la cybersécurité est un peu muette là-dessus. Elle ne condamne pas clairement ceux-là qui insultent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire comme dans d'autres pays qui ont, je pense par exemple à Bruxelles, qui a élargit la notion d'espace public sur le web afin que tout cela qui insulte sur les réseaux sociaux comme Facebook puisse être poursuivi par la loi.
Moi, il me semble que ça va être fait. Parce que, rappelez-vous, d'ailleurs, vous-même, vous en avez fait le rappel tout à l'heure, il y a d'abord eu la loi de 2010, puis celle de 2014. Il n'est donc pas exclu qu'on ait une loi assez rapidement évoluée qui va dans le sens de ce que vous proposez. Moi, ça me paraîtrait tout à fait logique, mais je suppose que le législateur a voulu construire un pont en l'empruntant.
De ce point de vue-là, et en prolongement à ce que Bogas venait de dire tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas raté le coach en privilégiant jusqu'ici la course aux abonnés au détriment de la sécurité sur ces réseaux sociaux?
On parle de plus de 2 millions de Camerounais sur Facebook.
Oui. Ce que je veux dire, c'est que le fait de multiplier les abonnés peut être un vecteur de croissance économique remarquable. Parallèlement, sécuriser ces réseaux. Mais peut-être que cette sécurisation n'a pas pu être faite de manière suffisamment robuste. Il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui pourrait, dans les choix qui ont été faits, amener plus de croissance économique, peut-être au détriment de la sécurité, mais on constate que de plus en plus, l'accent est mis pour que la sécurité soit renforcée dans les réseaux électroniques.
Le président de la République a demandé plusieurs fois que les membres du gouvernement puissent s'approprier ces réseaux sociaux pour communiquer. Lui d'ailleurs, il a une page Facebook active, une page Twitter vraiment active, mais pour sensibiliser sur ces différentes problématiques-là, les départements ministériels, on le constate qu'il y a encore un léger frein. Qu'est-ce que vous conseillez à cela?
Et peut-être avant de répondre, une question qui est liée à cela, est-ce que ce n'est pas finalement... Ceci expliquant peut-être cela, le fait qu'il y ait cette espèce de démission qui justifie la confiscation totale des autres acteurs qui ont trouvé du champ.
Oui, je pense que vous avez raison, mais je pense aussi que le gouvernement est en train de corriger le tir. Vous savez, certains parmi vous sont les experts, suivent les télécommunications depuis. Nous étions très en retard sur le mobile. Aujourd'hui, on constate... une avancée certaine. Le Cameroun continue à corriger le tir concernant le mobile. Je pense que ça va être le cas pour l'appropriation des réseaux sociaux.
Face à la rédaction ce dimanche, le professeur Emmanuel Tonier, nous parlons de la question des réseaux sociaux face à toutes les dérives constatées ces dernières semaines et à la décision du gouvernement de la République de se réapproprier le sujet. Messieurs, je voudrais que nous abordions deux autres questions, celles liées à l'éducation à l'usage à ces réseaux sociaux et peut-être en prolongement des questions de procédure, des questions juridiques qui ont déjà été abordées ici, des questions de régulation, questionner une fois de plus, pourquoi pas, la présence des pouvoirs publics même sur ces nouveaux médias. Michel Abanda.
Professeur, en matière de régulation, certains pays parmi nos voisins sont allés jusqu'à couper carrément les communications sur le net en période de crise. Le Cameroun pourrait-il s'en inspirer?
Moi, je suggérerais oui, parce que c'est toujours les conséquences qui amènent à prendre telle ou telle décision. Lorsque, par exemple, la sécurité nationale est en danger, moi, ça ne me paraîtrait pas anormal de couper pour quelque temps, puisqu'il ne paraît peut-être pas anormal aux gens d'interrompre le trafic aérien en cas de problème lié à l'insécurité nationale.
Sauf que pour le cas d'espèce, on violerait le droit du citoyen à s'informer et même à communiquer.
Oui, comment on violerait le droit du citoyen à voyager dans le cas où on venait à couper le trafic aérien? Mais je dis, tout dépend des conséquences par rapport à la sécurité d'un pays. Je ne crois pas que ce genre de décision serait prise à la légère. Je ne crois pas. Et puis je pense que les pays qui ont eu à prendre de telles décisions, ça devrait être fondé. Et en tout état de cause, ils consulteront les instances autorisées.
En tant que spécialiste, pensez-vous que, en l'état actuel des choses, avec ces publications que l'on dénonce sur les réseaux sociaux, les photomontages, les insultes, les diffamations, pensez-vous que la cote d'alerte est déjà atteinte pour qu'on coupe carrément les communications?
Je pense qu'il faut rappeler les sanctions qu'encourent tous ceux qui sont auteurs. Deuxièmement, rappeler qu'on peut les retrouver où qu'ils soient et pouvoir être sanctionné. Et il me semble que c'est cette campagne qui est en cours de rappeler, ne fût-ce que les quelques vertus des deux lois sur la cyberespace, faire des efforts pour faire évoluer ces lois, tenant compte effectivement de cette situation que vous décrivez.
Il y a des études qui ont été faites par des ONG. Il y a eu des pertes immenses en termes de revenus pour les États et les entreprises du fait de la coupure de l'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Cameroun peut recourir à cela, sachant que l'économie du Cameroun perdrait en termes d'entrée, de recettes?
Non, personne ne peut faire l'apologie de la coupure d'Internet. Je crois qu'il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit
partie de la sécurité d'un État. Si un État est en danger parce qu'il y a un instrument de développement qui en est la cause, c'est de ça dont nous parlons ici. Il peut être question de couper cet instrument quelque temps. Attention, puisque nous savons tous que des coupures qui sont anarchiques, on pourrait parler de délestage, sont particulièrement consommateurs de notre produit intérieur brut. Et c'est connu. D'aucuns avancent, et vous savez que ça a une conséquence d'ailleurs sur Internet, que les coupures électriques sont pas loin de 1 à 2% de réduction de notre produit intérieur brut.
Madeleine, si vous permettez, j'aimerais revenir sur le cadre juridique pour soulever ce paradoxe entre, d'un côté, vous l'avez souligné, professeur, la possibilité qu'il y a à démasquer les hackers sur les réseaux sociaux, on peut les identifier, les différentes lois qui condamnent ces mauvaises pratiques-là, et de l'autre côté, pratiquement le silence qu'il y a dans certains procès, il faut le dire, qui ont cours dans les prétoires face à ces ennemis de la paix. Le problème ne se situe-t-il pas au niveau du manque de communication sur ces procès qui ont cours et qui peuvent donc servir d'exemple pour sensibiliser les autres internautes sur les réseaux sociaux?
Oui, mais peut-être qu'il faut que vous continuiez cette démarche en continuant à identifier les ressources humaines en matière juridique relativement au cyberspace. Peut-être que on n'a pas suffisamment d'experts dans ce domaine, ce qui peut expliquer des résultats mitigés dans les tribunaux. Donc, il vaut mieux encourager la formation des gens dans ce domaine-là.
Pour être concret, je prends un exemple. La malheureuse photo de Rigobert Song qui se retrouvait sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'on a identifié déjà l'auteur de cette publication.
Oui.
Mais vous voyez le vide qu'il y a autour. Il n'y a pas de communication pour dire voilà telle personne qui a posé tel acte avec les sanctions qui vont avec.
Oui.
Lorsqu'il y a ce vide, cela encouragerait les autres à continuer à faire des mauvaises publications.
Vous avez raison. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut régulièrement faire évoluer la loi. Il faut tous les textes nécessaires pour pouvoir prendre des sanctions légales. Ça rejoint la question tout à l'heure sur l'évolution de la loi sur le cyberespace. Il y a sans doute d'autres textes qu'il faudra promulguer pour avoir des sanctions appropriées à tous ces dérives.
Revenons sur la limitation de l'accès à l'Internet. Des informations concordantes font état de ce que dans certaines villes de la région du Nord-Ouest aujourd'hui ont une coupure de l'Internet. Vous pensez que dans la situation actuelle, il y a lieu de couper l'Internet?
Dans la situation actuelle, moi je n'encouragerais pas. De même que nous sommes tous à déplorer le fait que nos enfants, nos étudiants ne puissent pas aller à l'école. Donc, cela qui nous impose une telle situation, c'est très regrettable. À mon avis, ça devrait être tout aussi bien sanctionné. Un effort est en train d'être fait pour que tous les pouvoirs publics s'adaptent à la numérisation de la société. Et moi, je pense que ça va être fait.
Quelle serait la meilleure manière de former les acteurs publics à l'utilisation de ces réseaux sociaux, d'après vous?
La première manière, c'est celle qu'on est en train d'utiliser actuellement, à savoir présenter et toujours parler de cette nécessité de la conversion. C'est très important parce que vous savez, dans d'autres domaines, on dit que la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? C'est-à-dire le fait de présenter quelque chose finit par convaincre un certain nombre de gens. Donc ça, c'est le premier étage de la formation. Le deuxième étage, j'encourage que les gens utilisent les réseaux sociaux thématiques. Ça peut être, par exemple, que les membres du gouvernement communiquent mieux entre eux à travers des outils de socialisation. Qu'un certain nombre d'institutions communiquent mieux entre eux à travers les outils de socialisation. L'extension aux outils de socialisation publique se fera, il me semble, plus naturellement. Le troisième étage, évidemment, c'est revoir nos curricula. Nos curricula, vous qui en êtes expert, il n'y a pas beaucoup de cours sur les réseaux sociaux. Peut-être que
dans des cabinets spécialisés,
je pourrais être
spécialisé comme ICT Media Strategies ou alors dans d'autres.
Et peut-être voilà. Que le professeur pourrait lui-même proposer, pourquoi pas, au gouvernement. Il nous parlait tantôt des formations à distance. Michel Abanne.
Alors justement, sur le volet de la formation professeur, nous louons les propositions que vous venez de faire, mais comment véritablement promouvoir cette éducation dans un domaine où La plupart des parents sont analphabètes. On se rend compte que les réseaux sociaux aujourd'hui semblent être l'apanage des jeunes.
C'est le genre de raisonnement que j'ai entendu dans les années 98. Il était difficile de penser que le Camerounais lambda, la Bayamselam, va pouvoir utiliser le téléphone pour mieux gagner son pain. Pas seulement dans le sens de communiquer. Or, c'est le cas aujourd'hui. Il se trouvera la même chose pour les réseaux sociaux. J'aime seulement vous dire que nous sommes obligés de construire beaucoup de choses en même temps. Et cette construction s'accélère progressivement, moi, il me semble. Et donc, il n'est pas très compliqué d'intégrer la population dans les réseaux sociaux. Je me rappelle, vous, les journalistes, vous avez présenté des Bayam Selam qui faisaient WhatsApp, n'est-ce pas? C'est peut-être embryonnaire, mais je suis optimiste.
Une certaine opinion a l'impression que le phénomène des réseaux sociaux, notamment la campagne de sensibilisation et même la campagne de lutte, que cette initiative-là est purement camerounaise. Est-ce que le phénomène des réseaux sociaux s'oppose avec la même acuité hors du Cameroun, à travers le monde? Vous qui êtes spécialiste pour ça.
J'ai lu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui disait que c'est l'habitude des Camerounais. Ils disaient la même chose. Ils disent la même chose tout le temps au bar. Sauf que il n'avait pas un amplificateur. Il se trouve maintenant qu'il y a un amplificateur. Donc, ce qu'il disait en privé, après avoir bu plusieurs bouteilles délicates, voilà. Donc, ma foi, qu'ils sachent simplement qu'à tout moment, on peut les retrouver et les sanctionner.
Alors, face à ce monstre tentaculaire que représentent les réseaux sociaux, l'État est-il encore vraiment maître dans sa propre maison? Quand on se rappelle, par exemple, le site de la présidente de la République qui a été piraté.
Oui, l'État est maître dans sa propre maison. Le président Trump a dit aux démocrates, vous savez, dans le monde maintenant, tous les pays s'espionnent les uns les autres. Si vous, les démocrates, n'avez pas pris toutes les précautions nécessaires, c'est de votre faute. Et nous, les républicains, on l'a fait. Et il a félicité un de ses collaborateurs à cet effet. Donc, on prend conscience, et grâce à vous, et c'est bien de le rappeler régulièrement, on prend conscience que c'est un danger chez nous. Et il faut donc que des mesures correctives soient prises. Madame le ministre des Postes et Télécommunications a rappelé la loi, les sanctions, et indiqué qu'à partir de maintenant, on va passer à la vitesse supérieure pour pouvoir effectivement sanctionner les coupables. Moi, je fais confiance. Il faut que cela se fasse.
Professeur Emmanuel Tonnier, je m'en voudrais de vous laisser partir sans interroger nos parents. Que diriez-vous personnellement à vos enfants face à la situation actuelle, tous ces messages qui circulent sur le net et malheureusement, messages auxquels tout le monde peut avoir accès? Quels conseils leur donneriez-vous?
C'est une question assez compliquée parce que le plus connu en la matière est la protection parentale. Pour un téléviseur, on peut mettre des filtres. Dans un ordinateur, on peut mettre des filtres. Au niveau des routeurs qui sont au niveau de la maison, on peut mettre des filtres, ainsi de suite. Mais moi, je continue à penser que lorsque on se retrouve à utiliser tous ces outils au niveau scolaire, et constater dans la pratique de leur utilisation les dangers que peuvent causer les dérives, on va beaucoup mieux informer nos enfants. Donc, deux niveaux, nous avons des outils de filtrage que je me dois comme parent de mettre, même si je sais que certains de mes enfants vont les éviter, mais j'aurai fait mon travail. Deuxième niveau, que ces outils de socialisation soient utilisés dans tout notre processus de formation. En effet, on pourrait, au lieu de mettre une carte, une fiche qui nous apprend un nouveau concept, on pourrait mettre une photo dégradante du camarade. Mais rapidement, il sera sanctionné, c'est-à-dire qu'il peut même être renvoyé pour avoir fait ça. Il saura que plus tard, s'il le fait dans les réseaux sociaux publics, il pourrait être emprisonné.
Professeur Emmanuel Tonnier, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été face à la rédaction ce dimanche. Merci Bogas.
Merci Madeleine, c'était un plaisir.
Michel Abanda.
Merci Madeleine.
Professeur, bon dimanche.
Merci madame.
Just
À suivre dans la deuxième heure de dimanche midi, la dernière actualité dans la tanière des Lions Indomptables, où le match de qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017 domine le débat. Nous retrouverons dans quelques instants à Libreville Samuel Billon. À suivre aussi le duel de dimanche midi, mis en scène par Berthe Mbala depuis les studios de CRTV Littoral à Douala, les grandes lignes de l'actualité de la semaine rassemblées par Cyril Kinyembepe dans le bouquet de dimanche midi, l'actu média lu par Nicole Doudou, la balade dominicale d'Adrien Takoufo et l'évocation des 129 ans d'histoire de Yaoundé, la capitale camerounaise, un rappel historique de Michel Abanda que nous retrouverons dans les coulisses et la scène. Mais tout de suite, le journal.
Le JDM, le journal du dimanche.
Constance présente le JDM. Bonjour Constance.
Bonjour Madeleine Sopi Koto. Bonjour Madeleine Sopi Koto et bonjour à tous. Voici le JDM. Au sommaire du JDM, reprise des cours dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce lundi 23 janvier. Les appels des parents et des élèves se multiplient pour l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et en sport, Cameroun-Gabon, c'est ce soir à 20h pour la troisième journée de la poule A. Un match nul suffit aux Lions Indomptables pour être en quart de finale. Bienvenue à tous. Les cours reprennent impérativement ce lundi 23 janvier 2017 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le gouvernement de la République a pris une batterie de mesures pour rendre effectif le retour des élèves dans les salles de classe. Des mesures de sécurité notamment sont en place pour la protection des enseignants, des élèves et du personnel administratif des établissements des deux régions anglophones du pays. Les appels, eux, se multiplient pour la reprise des cours ce lundi dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les parents d'élèves du Nord-Ouest demandent que l'on laisse l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Elvis Guimeson est en ligne de Bamenda.
Tu gardes ton enfant à la maison, alors que tu travailles déjà.
Le ras-le-bol et l'exaspération semblent déjà consumer ce parent d'élève.
Je pense que c'est l'égoïsme. Je voulais que les enfants puissent aller à l'école.
Le geste qui sauve pour ce parent, comme pour bien d'autres, c'est d'accompagner ce lundi 23 janvier 2017 les enfants à l'école.
Ça n'a que trop duré. Les enfants ont beaucoup perdu, les parents aussi. Et ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. On doit laisser la politique aux politiciens et l'école aux écoliers.
Dès lundi, mes enfants iront à l'école.
Par ce geste, l'école sera sauvée, les enfants aussi. Et les énormes sacrifices financiers consentis en début d'année ne seront pas vains.
Il y a l'argent que je prêtais dans les temps pour pouvoir payer les pensions des enfants. Donc, il faut que l'objectif que j'ai prêté l'argent, que ça soit réalisé. Alors que s'ils étaient à l'école, ils devaient quand même apprendre quelque chose.
Ceux qui sont peut-être des filles, allaient peut-être encaisser des grossesses par-ci, par-là.
Le tout administratif a pris des mesures pour accompagner cette reprise des cours. La balle est donc désormais dans le camp de la communauté éducative du Nord-Ouest qui ne voudra plus certainement rater le train de l'année scolaire 2016-2017.
Les élèves, principales victimes de la sécession des cours depuis le 21 novembre 2016 dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, réclament à corps et à cri le respect de leur droit à l'éducation, un des droits fondamentaux de tout être humain. Écoutons quelques élèves rencontrés à Bamenda par Sardi Lawan.
Arnaud, étudiant de l'université de Bamenda. Je suis en deuxième année et je fais gestion. Ça dérange beaucoup, on n'est pas à l'école et peut-être on pouvait dire que je pouvais rester à la maison, je prends les notes. Nous, on n'a pas les notes parce que nous sommes les premiers pour commencer cette section-là.
Boris, élève qui fait opacité. Ah, comme il n'y a pas l'école, c'est difficile.
Je pars un peu dans le net, je cherche un peu là pour regarder comment ça se passe. Ça dérange parce que dans le net, tu ne sais pas exactement ce que était dans le programme.
Pas de continuer. Mes amis, on fait des petites choses de l'école, l'exercice, on compose quelque chose, on cherche quelqu'un, il corrige ça. Je veux aller à l'école parce que l'année, si je compose, je suis attentif.
Je demande l'aide du gouvernement pour qu'il puisse nous aider à ce que l'école puisse reprendre dès lundi, le 23. L'école est un droit de l'enfant, donc on ne doit pas nous priver de l'école.
Signalons que les responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances se retrouvent ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est pour les travaux de leur conférence annuelle qui aura pour fil conducteur optimiser la mobilisation des recettes fiscales, préserver la fiabilité et la soutenabilité de la dette publique en 2017. Ces assises seront suivies mardi 24 janvier par la présentation des vœux de nouvel an au ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, et au ministre délégué, Elong Paul Tchi. Le 23 janvier 2017, cela fera un an jour pour jour que les avions MA-60 sont exploités par notre compagnie aérienne, la Camerco. À l'occasion de cet anniversaire, les officiels camerounais et chinois se sont mobilisés pour saluer la coopération entre les deux pays sur le plan de l'aviation civile. Notre reporter Mathieu Kemgo les a rencontrés. Mais aussi a effectué le voyage Yaoundé-Douala à bord d'un MA-60. Question de recueillir les sentiments de ceux qui empruntent cet avion au quotidien. Un avion qui donne entièrement satisfaction pour le moment aux populations du Cameroun qui font donc la ligne à bord de ces avions de marque chinoise. Voici le reportage de Mathieu Kemgo.
Vol 120 de la Cameco à bord d'un MA-60 décolle de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour Douala. Les passagers, pour la plupart des journalistes, ont été invités à évaluer les performances de cet avion un an après son entrée dans la flotte de la compagnie aérienne nationale. Les journalistes échangent entre eux le temps d'apprécier le confort de l'avion, de penser aux polémiques suscitées à son arrivée au Cameroun et de rappeler avec le ministre des Transports Edgar Alain Mbengor la genèse de ce projet.
Cette opération s'était précisée à l'occasion de la visite d'État que le président Paul Biya avait effectuée en Chine en juillet 2011. Et le 23 janvier 2016, nous avons pu procéder au vol inaugural de ces deux avions de type MA-60 qui sont donc définitivement rentrés dans la flotte de Camerco.
Depuis un an donc, l'avion couvre les deux villes Douala et Yaoundé trois fois par jour et depuis octobre 2016, la ville de Bafoussam. Le voyage est paisible, atterrissage sans encombre à l'aéroport international de Douala, 35 minutes après le décollage à Yaoundé. Les passagers ne cachent pas leur satisfaction.
On me dit que c'est un vol qui vient de la Chine, j'avais un peu peur. Mais quand j'ai pris le vol, j'ai vu que c'est bon.
J'adore, c'est très confortable.
Des témoignages qui font la joie du commandant de bord, le commandant Martin Topé-Moulier.
Je vous répète, il n'y a aucun problème sur le plan technique.
Un pot d'anniversaire est offert aux passagers. Occasion pour le directeur commercial de la Cameco, Jean-Claude Quimpé, d'évaluer les performances de cet avion.
Les taux de remplissage s'améliorent de jour en jour, ce qui montre qu'il y a un intérêt particulier pour la clientèle.
30 minutes de pause et l'avion décolle de nouveau pour Yaoundé. Les MA-60 sont donc entrés dans les mœurs des Camerounais. Le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengor, qui a contribué pour leur mise en service, est satisfait. Raison de plus pour envisager la coopération chinoise dans le plan de relance de la Cameco.
Dans le plan Boeing, et précisément dans la proposition de flotte que Boeing a faite au Cameroun, il y a bel et bien une recommandation pour que la flotte de Camerco comprenne des avions de type MA-60.
Une coopération déjà fructueuse sur le plan de l'aviation civile. Son Excellence Wei Yuanhua, ambassadeur de Chine au Cameroun.
En 2015, la Chine a livré 4 hélicoptères et 2 MA-60 au gouvernement camerounais. Prenant en considération un MA-60 offert à titre gracieux par la Chine au gouvernement camerounais en 2012, on compte aujourd'hui 3 MA-60 en service au Cameroun. Un accord sur la coopération de l'aviation régionale entre nos deux parties est en pleine discussion.
Avec le Cameroun, la Chine envisage plusieurs domaines dans l'aviation civile.
Il y a une grande potentialité de développement et une belle perspective pour la coopération sino-camerounaise dans l'aviation régionale, la construction de l'aéroport, la formation du personnel le transfert de technologies, etc.
Il est même envisagé avec la Chine la création d'une école de l'aviation civile au Cameroun. Edgar Alem Bengo, ministre des Transports.
Ce projet qui a été accueilli avec une grande satisfaction par le gouvernement camerounais fait actuellement l'objet d'une étude appropriée car c'est un projet qui est appelé à apporter une plus-value substantielle à notre pays dans le domaine de l'aviation civile, précisément en ce qui concerne la formation des personnels techniques.
Les MA-60 ont offert au Cameroun l'occasion d'entrer sur le terrain très pointu de l'aéronautique civile. En laissant tomber certains préjugés sur les produits de l'empire du milieu, notre pays s'offre la perspective de voler plus haut dans l'espace très concurrentiel de l'aviation civile.
En sport, Cameroun-Gabon, c'est ce soir à 20h. Les poulains de Hugo Brousse ont reçu ce matin la visite du ministre des Sports et l'Éducation physique, Déby Kembe, envoyé spécial à CRTV à Libreville.
Tout le monde ou presque sait que les lignes de fracture sont nombreuses autour du match Cameroun-Gabon. Fracture entre Gabonais avec la tension politique qui règne dans le pays en ce moment. Fracture entre supporters camerounais et gabonais. Les premiers ne pardonnant pas aux seconds de s'être retournés contre eux lors du match qui les opposait au Bissau-Guinéen. Mais comme pour apaiser les grands écarts de tous ces cœurs surchauffés, la nature a envoyé ce matin un message d'union autour du ballon rond. Les différents adversaires se sont réveillés sous une météo pluvieuse. Les pieds trempés, les Lions ont effectué leur dernière marche d'avant-match au bord de la mer. La rencontre avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique a eu lieu à 11h30. Bidoumpat a galvanisé Mukanjo et ses coéquipiers autour du vert ou jaune. Daniel Fraser Bennett va arbitrer le match. Le Sud-Africain de 40 ans est bien connu des Lions indomptables. À Blida, en octobre dernier, il a arbitré le match Algérie-Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Impartial, les Fennecs et les Lions indomptables s'étaient neutralisés, un but partout. Ce soir, au coup d'envoi, les supporters des Lions devront donner de la voix et croiser les doigts. Uriel Loga, Déby Kembe, Libreville, CRTV.
Fin du JDM, merci d'avoir suivi. Dimanche midi se poursuit. Aux commandes, Madeleine Sopi-Koto.
Merci Constance et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. La suite de Dimanche midi, c'est balle au pied et c'est tout de suite.
Dimanche midi, sport.
La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football atteint la vitesse de croisière ce dimanche avec les premières rencontres de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Deux matchs sont à l'affiche dès 20h. À Franceville, la Guinée-Bissau se lance au défi d'une qualification historique en quart de finale. Ce sera contre le Burkina Faso. Mais le match le plus attendu se joue à Libreville entre le Cameroun et le Gabon, pays organisateur. Pour ce match piège aux allures de derby sous-régional, les Lions indomptables du Cameroun n'ont qu'un seul objectif, celui de remporter les 3 points du jour. Quel est l'état d'esprit au sein du groupe à quelques heures du match de ce soir, 20h, heure de Yaoundé? Question à Samuel Billon, l'un de nos envoyés spéciaux à Libreville, Samuel, qui a les yeux dans la tanière. Bonjour Samuel.
Bonjour Madeleine Sopi-Koto, bon dimanche et bienvenue à Libreville. Un peu comme dans l'attente d'un procès sans appel, la capitale gabonaise vit un long suspense enveloppé dans l'indécision et l'incertitude. Le match Cameroun-Gabon de ce soir n'est pas une rencontre amicale, encore moins une finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, mais l'enjeu pèse un peu plus au sein de l'opinion, à l'image par exemple d'un certain Cameroun-Gabon du 8 décembre 88 à Yaoundé en finale de la Coupe de l'UDEAC. Ce jour-là, les Gabonais s'imposaient à la cuvette de Fandena à la surprise générale, 1-0. Le 13 janvier 2010, en Coupe d'Afrique des Nations de football, ce sont les Gabonais qui prenaient encore le dessus sur les Camerounais sur le même score d'un but à zéro. Ces rares étincelles dans le ciel du Gabon sont de véritables sources de motivation pour les Panthers ce soir. Le Gabon est pourtant un poids-plume sur la scène continentale avec comme seul fait d'armes les coupes de l'UDA remportées en 85 et en 88, la coupe de l'UNIFAC en 99 et la coupe de la CEMAC en 2013. Aucun trophée de Coupe d'Afrique, aucune participation en phase finale de Coupe du Monde. Au contraire du Cameroun qui revendique un passé glorieux, quatre fois champion d'Afrique, cette participation en Coupe du Monde, une médaille d'or olympique en 2000 à Sydney, mais le football n'est pas l'histoire et l'histoire du football s'écrit au présent. Les Lions de 2017 veulent ouvrir une nouvelle page du livre d'or du football camerounais. Pas question pour eux de ne pas entrer dans l'histoire ce soir par la grande porte. Ambroise Oyongo Bitolo, latéral gauche virevoltant des Lions indomptables.
Ça sera un gros match. Tout le monde ici a besoin d'une qualification. On veut aller en quart de finale. Donc tout le monde est motivé.
C'est pas le match nul qu'on va jouer.
Non, mais je dirais que c'est pas le match nul. Déjà, si je viens pour jouer le match nul, je pense que ça sera très difficile. Il faut venir pour gagner. On n'est pas là pour partager des points. On est là pour avoir un très bon résultat. Et le très bon résultat, je pense que c'est la victoire. On veut finir premier du groupe. C'est le plus important.
Ambroise, vous personnellement, qu'est-ce que vous savez de cette équipe du Gabon?
C'est une grosse équipe. Ils ont des très bonnes individualités. Il y a Aubameyang, il y a Ndong qui tiennent vraiment cette équipe. Et puis il y a aussi des gars vraiment matures dans l'équipe comme Ekwele Manga. C'est la base de cette équipe. Donc je pense que si on sait tenir cette équipe, si on sait tenir ces trois joueurs-là, avec aussi notamment Evouna qui fait un bon travail sur le côté. Donc je pense que si on le fait bien, si on sait tenir, et déjà avec l'équipe qu'on a, cette envie qu'on a aussi, l'état d'esprit, je pense que si tout le monde fait le travail, comme le coach le demande, mettre un peu de soi pour pouvoir aller au-dessus.
Un signal fort de la mobilisation et l'intérêt que le Gabon nourrit dans le match de ce 22 janvier. Le président de la République en personne, Ali Bongo Ondimba, était à la rencontre des Panthers du Gabon ce samedi dans un huis clos digne d'un secret d'État. Les Lions en sont bien informés. Ils n'en éprouvent aucune émotion particulière. Au contraire, ils semblent en avoir la conscience d'un simple coup de fouet dans l'eau. Sébastien Siani, milieu terrain des Lions indomptables.
Je ne sais pas par rapport au président de la République du Gabon, je ne sais pas s'il va jouer, donc ça c'est autre chose. Nous on est confiants, on sait très bien, il y a une seule équation, on doit gagner ce match. Je pense pas qu'on doit aller jouer pour un point, parce que là on n'est jamais sûr. On va pour une victoire. Et le reste, la visite de qui que ce soit, je pense pas que ce soit important pour nous. On sait très bien ce qui nous attend. On a un match pour être qualifié directement pour les quarts de finale. On va vraiment jouer pour la victoire. Le reste, ça ne nous regarde pas.
Les Lions indomptables se sont donc passé le mot d'ordre. Victoire et rien qu'une victoire ce soir. Dans la tanière, les crinières sont bien dans le vent. Robert Ndiptambe, avant-centre.
Je me sens très plus à l'aise et très bien même pour le match là parce que je sais que c'est un match très important pour nous et c'est un match à gagner. Et je suis très à l'aise et je suis bien préparé pour ce match. C'est un match normal comme les autres parce que c'est au terrain qu'on joue. Le football ça se joue sur les stades, c'est pas seulement le nom, soit qui est organisateur ou quel pays, mais on doit respecter l'AVC, mais on est en train de partir pour la victoire et c'est ça notre objectif.
L'impulsion d'un match plein vient du banc de touche, l'encadrement technique est formelle, pas de calcul complexe. Les Lions doivent rester à Libreville pour la suite de la compétition. Hugo Bros, l'entraîneur de l'équipe.
Je pense que le plus important c'est de se qualifier pour les quarts de finale. Et je pense que la plus grande erreur qu'on puisse faire dimanche, c'est jouer pour le nul. Parce que là, vous risquez d'encaisser un but à la 89e minute et c'est fini. On doit essayer d'utiliser les chances qu'on a, les options qu'on a et de faire mal de temps en temps ou peut-être beaucoup à cette équipe du Gabon. Si on réussit à faire ça, ils vont peut-être commencer à hésiter, à douter. Et si on peut les mettre dans une position pareille, je pense que ce sera plus facile pour nous. Mais encore une fois, ce n'est que des paroles. Le faire, ça, c'est autre chose.
Une seule certitude à ce moment, Georges Constant Mandjeg ne sera pas de la bataille de ce soir. La faute à deux cartons jaunes est copée. Tout le reste du groupe est en super forme. Inutile de spéculer autour des réajustements tactiques qui s'imposent. Hugo Bros.
Premièrement, le cas de Bassogor, vous pouvez être certain qu'il sera prêt. Deuxièmement, on se crée des occasions de but chaque match, mais naturellement, la concrétisation de ces occasions de but, ça c'est un peu moins bon. Mais si vous parlez d'Abou, Abou est un très bon attaquant. Les attaquants, pareil, parfois, ils ratent les occasions et l'autre match, ils les mettent tous dedans. C'est naturellement un fait. Pour gagner des matchs, il faut concrétiser les occasions. Et troisièmement, la question à propos de Manjek et d'un Koulou et n'importe qui, je ne donne jamais une déclaration à propos de la composition de l'équipe du match. J'ai aucun problème pour vous dire que ce qui est le meilleur, c'est de gagner, être premier, rester ici à Libreville. On évite la meilleure équipe du tournoi, c'est le Sénégal. Il faut être correct et honnête là-dedans. La façon dont le Sénégal joue pour le moment est impressionnant. Si on peut éviter un adversaire pareil en quart de finale, c'est toujours mieux. Donc, gagner, rester ici à Libreville.
Roger Mila, Bill Chato, Jérémy Sorenjita, Tombi Aroko Sidiki, le président de la Fédération Camerounaise de football, et bien sûr le ministre des Sports, l'Éducation, Fizi Bidounkouat, ont aussi assuré l'essentiel, rassuré les joueurs du soutien total du peuple camerounais, accroché à leur engagement et à leur performance ce soir. Plus ou moins loin de la tanière, les Camerounais de Libreville, ancien Lion indomptable et entraîneur de football, donnent les clés du match. Éric Kouéke, ancien gardien de but, finalise la Coupe des Confédérations en 2003.
Soutention Gabon-Cameroun, a toujours été un match particulier, notamment le match où le Gabon doit absolument gagner pour s'il veut passer au tour suivant, étant pays organisateur. Nous savons que le Gabon n'a pas une préparation vraiment au niveau de la compétition, mais il faut aussi se rendre à l'évidence que cette équipe gabonaise monte en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Personnellement, je suis confiant par rapport à l'équipe nationale du Cameroun, Lions Indomptable. Et il y a une forte solidarité que je ressens au sein de ce groupe. Ce qui fait que même ceux qui sont sur le banc sont prêts à intervenir à tout moment, à mouiller le maillot. Ça reste un match de foot. À l'issue du match, je suis sûr que, quel que soit le vainqueur, ce sera l'Afrique centrale qui aura gagné.
Esaïe Sangou, entraîneur de football.
Le Gabon ne nous a pas monté grand chose. Moi qui connais un peu cette équipe, parce que j'ai pratiquement 5 joueurs dans cette équipe que j'ai eu entraîné. Les atouts, je dirais, c'est la vitesse. Parce que Aubameyang, c'est beaucoup d'appels sur les côtés, beaucoup d'appels sur les espaces. Une fois que ces espaces seront fermés, je pense que le Cameroun pourra tirer son épingle du jeu. Ça serait aussi maintenant à notre encadrement technique, à l'entraîneur, de faire un très bon choix. Parce que le choix au niveau de la ligne d'attaque est un peu comme si on tâtonnait.
Certains ont dit, cette équipe du Gabon est dans la rue, elle est perdue.
Le climat sociopolitique que vit le Gabon depuis les élections n'a pas permis que cette équipe-là ait le même soutien que cette équipe a souvent eu. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Nous nous plaçons le doute dans tout cela, parce que le Cameroun n'étant pas qualifié, c'est ce que nous appelons aussi le langage de la rue.
Les Lions ne sauraient être orphelins ce soir au stade de l'Amitié de Libreville. Le rassemblement des Camerounais de Libreville est à 16h au collège Bessieux. Billet d'entrée au stade et transport assuré. Cameroun-Gabon, le coup d'envoi sera donné à 20h à Libreville par l'arbitre sud-africain Daniel Fraser Bennett, à la même heure que celui de Franceville entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Malheur aux perdants. Libreville, Benjamin Bokali, Samuel Billon pour Dimanche Midi.
Merci Samuel Billon, rendez-vous est donc pris pour ce soir 20h. Match à suivre en direct sur cette antenne.
Le bouquet de Dimanche Midi.
Certainement constaté cette semaine, l'offensive médiatique du gouvernement de la République dans la gestion de la crise anglophone n'avait d'égal que la gravité de la situation. Reprenant des extraits du message du président de la République à la Nation le 31 décembre dernier, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a redit aux hommes et femmes de médias que la forme de l'État était non négociable. Le même message a été repris par le jeune Mbella Mbella face au chef des missions diplomatiques à Yaoundé. Le ministre des Relations extérieures expliquait en effet la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays et la détermination du gouvernement de la République à y trouver des solutions pérennes. D'autres membres du gouvernement sont montés au créneau. Le cas du ministre de l'Enseignement supérieur pour dire que le dialogue va se poursuivre dans le sens de l'amélioration du système éducatif national et la ministre des Postes et Télécommunications qui mettait en garde contre la désinformation via les réseaux sociaux. Le bouquet de dimanche midi vous est proposé par Cyril Kinyembepe.
L'engagement du gouvernement camerounais à résoudre les problèmes posés par les enseignants du sous-système anglophone et les avocats du Common Law a été mis à rude épreuve cette semaine. Il y a d'abord eu ces messages d'intimidation envoyés aux parents et aux élèves qui souhaitaient reprendre le chemin de l'école. Cela, ajouté aux images inexactes publiées dans les réseaux sociaux pour déformer la réalité de la situation sur le terrain. À toute cette désinformation, Minette Libom Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications, répond avec fermeté.
Le gouvernement est organisé parce qu'il y a toute une agence qui est équipée pour cela. En plus, toutes nos forces de l'ordre ont des plateformes de traque et de contrôle comme dans tous les pays.
Comme si cela ne suffisait pas, les revendications des syndicats sont passées de 11 à 18, puis de 18 à 21, avec des exigences portant sur la forme de l'État. Des revendications portées selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation par des groupements n'ayant aucune existence légale. René Emmanuel Sadi a donc pris un texte constatant la nullité du SCNC et du CACSC et selon l'inspecteur général au ministère de la Communication, il s'agit simplement d'une lecture des textes régissant les libertés d'association au Cameroun. Félix Zogo.
Il s'agit de se référer à la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 qui régit la liberté d'association au Cameroun et qui fixe les régimes des différents groupements, qu'il s'agisse du régime de la déclaration ou du régime de l'autorisation. Ces groupements n'ont jamais satisfait à l'une ou l'autre de ces contraintes légales. On aurait même pu encore les considérer comme des associations de fait. Elles tomberaient alors sous le coup des dispositions de l'article 4 de la loi qui fixe le régime des associations et qui stipule clairement que les associations qui sont fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État, sont nulles et de nul effet.
Issa Chiroma Bakari remarque face à l'intransigeance des représentants syndicaux qu'il y aurait un agenda caché. Pour que force revienne à la loi, une enquête judiciaire a permis d'interpeller et de placer sous main de justice deux des responsables des exactions. Pendant que les recherches se poursuivent pour en interpeller les autres, le ministre de la Communication rassure que les personnes intéressées bénéficieront, cela va de soi, de toutes les garanties légales pour un procès équitable. Et le gouvernement va tout mettre en œuvre pour que la paix, la sécurité publique et l'intégrité territoriale soient respectées.
Le chef de l'État affirme donc sans embâche, la forme unitaire de l'État est intangible et le Cameroun est un et demeure un et indivisible. Il n'y aura donc ni fédéralisme, ni sécession. Ces propos du président de la République ont désormais vocation à servir de boussole et de feuille de route. Ceux qui s'en démarquent choisissent de se mettre d'office en marge de la nation. Ceux-là donc doivent savoir que les régions du nord-ouest et du sud-ouest font partie intégrante de l'ensemble de la nation et que ce qui concerne nos compatriotes originaires ou installés dans ces régions intéresse la nation tout entière.
La forme de l'État au Cameroun est non négociable. Le message est désormais bien entré au cœur des responsables des représentations diplomatiques à Yaoundé. À la manœuvre, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbella Mbella.
Il n'y a pas de possibilité pour le Cameroun, je l'ai dit aux missions diplomatiques, de négocier avec son intégrité territoriale. Notre politique nationale est fondée entre autres principes sur la paix, la stabilité, l'intégrité territoriale du Cameroun, sur la protection des biens et des personnes et sur la sécurité. Sans ces préalables-là, on ne peut pas avoir de développement. Nous ne pouvons donc pas laisser ces groupuscules prendre le devant de la scène et croire qu'on est dans un état de non-droit. Eh bien, la force reviendra à la loi. Les enfants camerounais iront à l'école et il n'y aura pas d'année blanche.
Il a bien dit, l'année ne sera pas blanche. L'UNESCO également le réitère. C'est à l'État du Cameroun de décider d'une année blanche. Félix Yelohi Teyoyim, représentant résident de l'UNESCO.
Lorsque on arrive à une situation où les autorités d'un État déclarent une année blanche, et je dis bien les autorités d'un État, ce n'est pas l'UNESCO qui déclare une année blanche. Ce sont les autorités nationales qui, au vu d'un certain nombre de critères, peuvent décider de recommencer l'année parce qu'ils estiment que les contenus éducatifs n'ont pas été suffisamment transmis aux apprenants. Donc, c'est à l'État lui-même de décider. Et l'État a tous les moyens pour évaluer cette situation. Il y a les inspections de l'enseignement, il y a les directions générales de l'enseignement, etc. Donc, c'est à ce niveau que ça se décide et non au niveau de l'UNESCO.
Le gouvernement reste constant et ouvert au dialogue. Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, dit que les cours devraient reprendre avec la poursuite des échanges.
Mais un dialogue avec une thématique républicaine, avec des dossiers techniques. Dès que les dossiers sont techniques, nous les examinons, comme nous avons d'ailleurs commencé à le faire depuis notre première réunion du 18 novembre 2016, à laquelle d'ailleurs n'ont pas voulu assister certains syndicats, dont nous découvrons aujourd'hui, de manière relativement inexplicable, les desseins anticonstitutionnels. D'où la grève qui a effectivement commencé le 21 novembre. Nous continuons à travailler avec ces syndicats, qui sont des syndicats de bonne foi, que nous félicitons, parce que ce sont des syndicats républicains. La reprise des classes dépend évidemment de la bonne volonté des uns et des autres.
Semaine de tous les défis pour le gouvernement qui a su redonner du sourire aux parents qui croyaient que l'année scolaire serait perdue. Une fois encore, le gouvernail est bien tenu.
Midi, Actu Média.
Deux arrêts dans l'Actu Média de la semaine. D'abord, la carte de presse, désormais exigible à tout journaliste en reportage. Mais visiblement, nombreux sont encore ceux des hommes et femmes de médias qui traînent le pas pour s'en procurer. Nicole Doudou nous a rejoint dans ce studio pour en parler. Mais Nicole, commençons, si vous le voulez bien, par la sortie du président du Conseil national de la communication cette semaine, Peter Essoka, qui mettait en garde les médias nationaux publics et privés contre toute publication ou diffusion de propos tendant à faire l'apologie de la sécession ou du fédéralisme. C'est bien sûr dans le cadre de la crise anglophone. Certains médias ont d'ailleurs été clairement indexés et rappelés à l'ordre.
Il s'agit des organes de presse écrite et audiovisuelle dénommés Le Messager, Cameroon Post, The Guardian Post, The Times Journal, Canal 2 International, STV, Equinox TV, ainsi que certaines radios communautaires. Le CNC, par la voix de son président Peter Essoka, leur reproche d'offrir les espaces sur leurs antennes à la diffusion d'informations et de propos séditieux. C'est en rapport avec les mouvements de revendication antidémocratique orchestrés depuis un certain temps dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par des activistes sociopolitiques au sujet du retour à la forme fédérale de l'État et des appels à la sécession. Cette mise en garde du Conseil national de la communication prévoit des sanctions allant d'une suspension temporaire jusqu'à l'interdiction définitive d'activité. Où en est-on avec la carte de presse au Cameroun? La pièce est devenue désormais exigible aux journalistes pour assurer la couverture de tout événement d'envergure nationale et internationale. Le président de la commission de délivrance de la carte de presse satisfait du bilan. Séverin Tchunke.
Nous avons reçu déjà environ 1 000 000 de membres et nous avons délivré environ 800 cartes. L'engouement est tel que nous sommes même surpris, cela va au-delà de nos précisions. Vous avez toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent agir à marge de la réglementation, leur liberté. Ce que nous indiquons simplement, c'est que c'est le seul instrument aujourd'hui qui permet de déterminer qui est journaliste et qui ne l'est pas au regard de la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, ceux qui postulent ou ont des voyages à faire, on leur exige cette carte.
Désormais au Cameroun, aucun journaliste n'existe sans carte de presse. C'est un document qui permet d'assainir la profession déjà truffée de faussaires. Il permettra aussi aux hommes et aux femmes de médias de bénéficier de nombreux avantages liés à l'exercice de ce noble métier. C'est le cas, par exemple, de l'abattement de 35% sur les frais d'hôtel. La convention est déjà signée avec le syndicat des hôteliers du Cameroun.
La commission a travaillé d'arrache-pied. Nous avons signé des conventions. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec certains opérateurs pour finaliser d'autres conventions y afférentes.
Séverin Tchunke ajoute.
Quelques pièces, mais c'est contrat travail, les documents d'affiliation à la CNPS, les diplômes, d'autres pièces. Il suffit de rentrer en contact avec le secrétariat permanent de la commission. Dans les prochains jours, certainement, nous tiendrons une autre session, une session ordinaire de la commission, parce que nous avons encore des dossiers en souffrance. La commission se réunira pour délibérer. L'essentiel des journalistes de la CRTV, y compris l'actuel directeur général, détient déjà leur carte de presse.
À la CRTV, où nous avons rencontré le membre de la commission représentant les patrons de presse, Ibrahim Chérif a attiré notre attention sur le fait que de nombreuses cartes de presse sont en souffrance dans ces services. Beaucoup de journalistes et assimilés traînent encore le pas. Et pourtant, l'Office a préfinancé l'opération pour son personnel, réunissant les critères requis. Seulement, certains journalistes dans l'arrière-pays disent avoir perdu le nord par rapport à l'opération.
On n'en a pas encore, parce que déjà, la commission qui devait les faire établir ne passe pas par la région de l'Est où j'exerce. Et ça nous pose trop de difficultés, parce qu'on ne peut pas faire des interviews dans les sites des réfugiés. On nous exige ces cartes là-bas. Et finalement, on ne sait pas si c'est juste pour les gens de la ville. Les dossiers ont été collectés il y a bien longtemps, mais il n'y avait pas un point focal en tant que tel pour faire le suivi sur le plan régional, n'est-ce pas, la communication également pour dire aux gens comment est-ce que ces cartes de presse vont être élaborées. Si c'est centralisé à Yaoundé, ben là on ne comprend plus rien.
Une carte de presse pour la brandir fièrement à toute demande, une carte de presse pour édorer le blason de la profession de journaliste au Cameroun. Bon dimanche.
Bon dimanche, Nicole.
Dimanche midi, la balade dominicale.
Et c'est à une balade dominicale un peu décalée que nous vous invitons ce dimanche. C'est en fait une incursion dans l'industrie des obsèques et oui, le sujet est loin d'être tabou. Vous allez le voir. Autour des cérémonies funéraires, se sont en réalité greffées plusieurs activités devenues de véritables affaires. Celles des cercueils et des couronnes de fleurs, celles des corbillards, des vêtements et autres gadgets funèbres, décorations des maisons de deuil et chapelles et surtout des services traiteurs, tout un business, dites-vous, à Triantakoufo.
La mort, un sombre destin qui parvient tout de même à enrichir bien des personnes. Premier arrêt de notre balade dominicale chez les fabricants et vendeurs de cercueils. Chez Arsène, l'offre est variée et pour toutes les bourses.
Il y a les aquariums, il y a les valises et les caisses poissons. La valise, c'est un cercueil qui s'ouvre en un battant, parfois deux battants. La caisse poisson, c'est une caisse qui s'ouvre d'un petit couvercle en haut. Il y a la vitre à l'intérieur. L'aquarium s'ouvre comme le papillon. Il y a la vitre qui reste au milieu. Pour la valise, ça dépend du bois. Le bois blanc, ce n'est pas cher, c'est 80 000. Si c'est avec l'ongolong, tu pars même à 150 000, 200 000. L'aquarium, alors, à partir de 350 000.
Aïssi, lui, il nettoie la sueur de son front avec les nombreux billets d'argent qu'il gagne dans la vente des cercueils.
Il y a l'argent dans les cercueils. Si je n'ai rien travaillé la semaine, ça partit de 45 000, 50 000. J'ai dit maintenant que je travaille par mois. Si on ne me paye pas 200 000, je ne peux pas travailler. Le cercueil le plus cher que je vends ici, ça partit de 600 000. Si personne ne suit, je peux laisser ça à 550 000. Le plus mince, c'est 70 000.
Ces cercueils peuvent désormais être transportés aussi par des professionnels du protocole funèbre. Constitués en groupe, ils offrent leurs services pour accompagner magistralement les morts dans leur dernier voyage. Simon WhatsApp.
En Europe, on appelle ça les porteurs. Les porteurs qui assurent aussi, d'une part, la sécurité et le protocole de l'événement. Nous, on a essayé de faire de ça une profession. On peut avoir un groupe de 8 personnes, 16 personnes. Ça dépend de l'envergure de la cérémonie. Nous organisons les services funèbres. On peut nous prendre pour une levée de corps uniquement. On peut nous prendre pour un service complet. Maintenant, on peut nous prendre juste pour un enterrement.
Et pour chaque service, il y a un coût.
Les marchés sont négociés en fonction des clients. Parce qu'il y a des semaines, parfois, quand on n'a pas de marché, on est obligé de baisser un peu le coût pour ne pas rester sur place.
Roméo Fozzo, quant à lui, ne reste jamais sur place. Il transporte régulièrement et depuis 10 ans des corps à l'aide de ses véhicules, des pompes funèbres. Ces services sont payés en fonction des véhicules et de la distance à parcourir.
Il y a plusieurs catégories de corbières. Il y a les corbières simples, il y a les corbières de luxe, il y a les limousines. Donc ça dépend d'abord de la voiture et après du kilométrage. Donc il y a des conseils pour une Mercedes classique. Il faut prévoir dans les 200 000. C'est une limousine, il faut prévoir à partir de 500 à 1 million. Il y a des au bas là, les voitures simples, c'est dans les 70 80 000. Et les voitures de luxe, à partir de 150 000.
Dans cette activité, comme dans les autres, il y a aussi des périodes de très bonnes affaires.
On est vraiment sûr de sortir à la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, avec les salaires, les gens organisent les deuils. Donc on garde beaucoup plus les corps pour sortir à la fin du mois. Et certaines périodes de l'année, comme janvier, parce qu'en décembre, on cumule les corps et en janvier, on les fait sortir. C'est un métier comme tous les autres, ça nourrit son nom. Hein.
De nos jours, des familles incluent dans leurs cérémonies funèbres des objets distinctifs comme des vêtements, pagnes et autres gadgets.
Créer les pagnes, généralement, c'est pour rassembler les familles, pour dire voici la famille qui dit au revoir à telle personne. Vous arrivez à la morgue, il y a mille deuils. Alors, lorsque vous retrouvez le pagne de votre famille, vous avez un signe de communication. Il y a les pings et autres gadgets qui permettent à chacun d'avoir un souvenir de la personne qui est partie. Quand j'achète un ping, il y a la photo du disparu. Je n'ai pas eu sa photo chez moi. Je garde cette photo comme souvenir.
Eux aussi, ils gardent des souvenirs, ceux des bonnes affaires. Ce sont les vendeurs de gadgets et de vêtements.
Lors de deuil, nous vendons des chemises blanches, les nœuds, les chaussettes blanches, les gants blancs et des donjons blancs aussi. Ceux qui veulent les vestes, on achète les vestes noires, les vestes de couleur belge. Ça dépend du client. Il y a des semaines où tu peux avoir deux, trois clients. On peut avoir beaucoup de commandes. Ça, c'est selon tes connaissances.
Loin des marchés, on se retrouve dans les maisons de deuil et chapelles ardentes. Elles scintillent de beauté lors des cérémonies funèbres grâce à la touche artistique des décorateurs.
En général, il y a les plaquages, les fleurs qu'on plaque au mur. Il y a le porte-cercueil. Et après, on met le linceul, ça veut dire le tissu qu'on met dessus là. Maintenant, on met dans les fleurs tout autour du porte-cercueil, dont on appelle jardinière. En dehors de ça, on peut utiliser les poteaux décorés qu'on plaque dans les angles, dans les maisons. Dehors, parfois sur les tanks, on peut mettre des palmes tissées avec des bouquets dessus. On utilise des fleurs selon les couleurs du client. Et ce que le mort aimait, ça c'est glaël blanc. Oui, elle a son prix, 500. Vous allez voir les gerberas importés, c'est aussi 500 la pièce. Il y a les spatifilium, eux c'est 300 francs la pièce. Il y a les anthuriums, le prix va selon le volume. 500, 700 000, ça va jusqu'à 3 000, une pièce.
Et tous ces décors qui changent de visage au gré des manifestations tristes constituent un business juteux pour les acteurs de la décoration.
On peut dire qu'on survit avec 800 000, 200, ça monte au fur et à mesure que le client en demande. Si vous voyez déjà qu'il y a un marché de fleurs, ça veut dire que quelque part, ça peut nourrir des familles.
Rendu sur les lieux de cérémonies funèbres, Les professionnels de service traiteur sont fortement sollicités et leur matériel aussi.
Pour les deuils, le matériel qu'on prend le plus souvent, c'est les tentes, les chaises et la chapelle mortuaire. Les chaises habillées ont leur prix 300 francs et non habillées, c'est 100 francs. Et le VIP, c'est 500 francs. Si le client veut que nous allons installer, nous allons partir et là, le prix serait un peu différent.
De même, la gastronomie est assurée par les acteurs des services traiteurs. Le manger et le boire participant incontestablement à la réussite des obsèques.
Dieu nous a demandé de lui rendre grâce dans toutes les circonstances, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans la joie. On doit faire manger aux gens.
Finalement, autour des cérémonies funèbres, se sont greffés plusieurs business. Ils constituent toute une industrie qui nourrit bien plusieurs familles.
Merci Adrien. Madame, Monsieur, merci de rester en notre compagnie. Et je vous reviens dans un instant.
Dimanche midi, les coulisses et la scène.
Promenade patrimoniale à Yaoundé, la capitale du Cameroun, autrefois appelée Ongola en langue Ewondo, est l'espace où s'incarnent les pouvoirs de l'État. L'architecture et la monumentalité de certains édifices révèlent une carte de la fonction politique ancrée sur les hauteurs de la ville aux sept collines. Yaoundé, 129 ans après sa découverte en janvier 1888 par des officiers allemands, c'est une évocation historique de Michel Abanda que nous avons grand plaisir à retrouver dans les coulisses et la scène de dimanche midi.
Avant l'arrivée des Blancs, Yaoundé était une série de gros villages. C'est les Allemands qui fixent ces populations.
Le premier poste militaire de Yaoundé est fondé en février 1889 par les colons allemands. C'était un an après la découverte du site par Kund et Tappenbeck. Professeur Robert Pan, historien.
C'est les deux premiers officiers du Reich qui sont entrés en contact avec les peuples Ewondo. Et c'est Kund qui a choisi Yaoundé comme un poste parce que d'abord le site et ensuite le caractère paisible des peuples Ewondo. Après, il va faire venir Gord Zinker, qui sera donc le tout premier chef du poste de Yaoundé.
Le major Hans Dominique prend le commandement du poste en 1895. Il élève des fortifications en briques de terre ponctuées de quatre tours carrées. Ce périmètre clos est le lieu fondateur de la ville de Yaoundé.
Hans Dominique est le premier bâtisseur de Yaoundé. C'est lui qui va changer l'architecture. C'est avec lui que commence réellement le nom Ongola, c'est-à-dire cette redoute qu'il a construite pour protéger les Ewondo des attaques des Mbinabani.
À cette époque, Ongola ne compte qu'une cinquantaine de cases en planches. La population est évaluée à 300 personnes à peine. Professeur Bobda, chercheur en sciences humaines, enseignant à l'Université du Havre en France.
Au début, il n'y avait que des postes militaires, non? On a vu ensuite venir à l'arrivée des Européens français une autre appellation qui était Djongolo et qui englobait également cette partie-là qu'on appelle Yaoundé aujourd'hui. Puis ensuite, on est revenu sur Yaoundé avec Yaoundé divisé en trois arrondissements, puis en quatre, qui a fait très longtemps l'essentiel du découpage. Yaoundé premier, Yaoundé deuxième, Yaoundé troisième, Yaoundé quatrième. Et puis on est passé à Yaoundé 6 au sorti des années 80. Et aujourd'hui, il y a un septième élément qui s'est ajouté.
Depuis sa création, Yaoundé a connu quatre magistrats municipaux, dont trois délégués du gouvernement. André Fouda, Basile Emma, Nicolas Amougounouma et Gilbert Timievouna, en poste depuis 2004. En 129 années d'histoire, plusieurs figures emblématiques ont marqué de leur empreinte la vie de Yaoundé. Professeur Daniel Abois, historien.
Charles Tangana est resté le chef charismatique de toute la ville de Yaoundé.
André Fouda Oumba est un nom important dans l'histoire de Yaoundé.
Beaucoup d'infrastructures ont été construites sous lui. Il a ouvert beaucoup de quartiers. Mais celui qui semble marquer suffisamment la ville de Yaoundé, c'est l'actuel délégué du gouvernement, qui véritablement apporte une contribution assez éloquente.
Je vais à Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, la capitale, Yaoundé, la capitale.
visuelle de dimanche midi.
Et c'est désormais un rendez-vous, le duel de dimanche midi, qui nous amène une fois de plus dans la ville de Douala, la métropole économique. Face à face, le député Joseph Owonakono, président du comité régional du suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public, et Gilbert Kouben, entrepreneur de Bakuna Group International. Au centre de la confrontation verbale arbitrée par Bertrand Mbala, les freins à la bonne exécution du budget d'investissement public à l'aune du nouvel exercice budgétaire.
Honorable Joseph Owonakono, bonjour.
Bonjour.
Nouvelle année, nouvelle méthode. Une session de votre comité est déjà prévue pour le mardi 24 janvier 2017 à Douala, dans la région du littoral. Vous aurez déjà du grain à moudre.
Nous avons à passer en revue le dernier semestre pour voir ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été, pourquoi, et trouver forcément des solutions aux problèmes qui éventuellement n'ont pas pu être résolus avant la fin de l'exercice. Nous allons également aborder la mise en œuvre du budget 2017 qui, je le rappelle, est exécutoire et était exécutable dès le 1er janvier.
Monsieur Gilbert Kouben, en tant qu'entrepreneur, si les portes de ce comité vous étaient ouvertes dès mardi prochain, vous pensez pouvoir avoir déjà des choses à dire?
Bien évidemment, nous avons des difficultés liées à la régularité des financements. Ça veut dire que toutefois, le marché d'offres est lancé. On nous propose par exemple une avance. Dès que nous nous sommes engagés, même à 50%, généralement, nous n'avons pas de retour. Le problème que nous avons, c'est surtout le problème de respect du cahier de charge des deux parties.
Je reviens à vous, honorable, pour la préoccupation que soulève Monsieur Gilbert Kouben, les problèmes de financement. Vous pensez que l'État paye juste ses partenaires?
Dans le principe, il y a les autorisations d'engagement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter un projet s'il n'y a pas d'autorisation d'engagement. Et en face des autorisations d'engagement, il y a les crédits de paiement. Donc cela veut dire que aucun projet ne peut être lancé si les ressources ne sont pas disponibles. Je parlerai de la méconnaissance des procédures au niveau des entreprises qui soumissionnent. Il y a des entreprises qui choisissent de ne pas demander d'avance, par exemple, et qui attendent jusqu'à la fin du chantier pour présenter un seul décompte. Alors, cela peut poser des problèmes parce que au niveau de ce à quoi on s'est engagé depuis le début, si l'on ne respecte pas ce à quoi on s'est engagé soi-même, à savoir que sur telle périodicité, je vais présenter des décomptes, etc., vous pouvez mettre l'État dans une situation où les procédures ayant changé, ça prend un peu plus de temps pour payer. Également, il y a au niveau des entreprises, et cela nous l'avons constaté avec effarement, qu'il y a des entreprises qui sont compétentes sur le papier. Ils passent tous les tamis, mais rendu sur le terrain, l'entreprise est incompétente.
Ignorance ou non-maîtrise des procédures, et vous pensez que c'est ce qui fait problème?
Lorsque l'entreprise propose de faire un seul décompte, alors la partie administrative de l'État a déjà pris note de ce que demande l'entrepreneur. Maintenant, quand nous sommes au préalable préfinancé par une banque, il y a également dans notre cahier de charge une suivi étatique. Malgré que le problème de financement se pose dans la mesure où nous voulons faire un seul décompte, également dans le cahier de charge, une autre volet qui est la suivi étatique des travaux. Dès que eux, ils ont réceptionné la première phase des travaux, si c'est stipulé en trois phases par exemple, alors dès que la première phase est validée, eux également, avec leurs expertises, devraient déjà commencer à notifier, à apporter des amendements. Et au fur et à mesure qu'on avance, dès que nous avons déposé notre décompte, ça ne devrait plus traîner parce que nous avons des contraintes.
Honorable, pour rester sur ce problème de financement, il n'y a pas longtemps, les marchés publics, c'était l'affaire de tout le monde, ça marchait très bien. Aujourd'hui, cela se voit de moins en moins. Et même des voix s'élèvent pour dire que l'État n'est pas bon payeur. Il y a eu des projets ici dans la région du littoral qui n'ont pas pu trouver preneur parce qu'on estimait que ce que l'État proposait était trop peu par rapport au travail fait. C'est un problème qui revient.
Bon, il y a la mauvaise évaluation des projets. Il y a ce volet maturation. Donc on doit effectivement, lorsqu'on mature un projet, prendre en compte tout l'environnement et toutes les composantes d'un tel projet. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous construisez une salle de classe à Manoka ou à Nkondjok, elle n'a pas le même coût qu'une salle de classe construite à Newbel. Mais comme il y a une mercuriale, elle vous donne le même prix partout. On n'a pas tenu compte du transport, de l'enclavement de certaines de ces zones. Donc une salle de classe qui coûterait par exemple 8 millions à Douala, elle coûtera 10 ou 12 millions dans les deux autres endroits que j'ai cités. Mais l'entrepreneur à qui on attribue un marché pour 8 millions sera dans l'incapacité de le réaliser.
Si l'entrepreneur ne le dit pas, c'est qu'il a une façon de se débrouiller. Ça veut dire que vous réalisez mal ou alors vous laissez tomber.
Par exemple, nous avons une logique sur le patrimoine.
Vous tournez à perte alors ?
Non, pas qu'on tourne à perte. Dans tous les cas, on ne peut pas perdre dans un marché. Nous avons établi dans notre entreprise une politique pour pallier à tous ces problèmes. Si nous avons un marché à Manoka qui est mis dans le même coefficient, ou dans le même barème qu'en marque, le même marché qui serait réalisé.
À Douala, par exemple.
Douala, par exemple, à Manoka, nous sommes dans la troisième zone. Ça veut dire que la main-d'œuvre là-bas est déjà moins chère. Sauf déplacement de matériel. Nous avons opté dans l'équipement, dans la préfabrication de nos matériaux. Nous sont inspirés même d'une idée américaine de low-cost building. Et quand nous avons étudié ce problème de low-cost building, nous avons juste compris qu'à chaque problème, une solution.
Honorable, on va à l'autre extrême du problème. Parfois, les projets sont jugés surfacturés. À qui la faute ?
On parle là de corruption, hein. Ne nous voilons pas la face. Et c'est lié à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, j'ai vu des salles de classe construites quelque part où j'ai demandé à l'entrepreneur si ça avait été des salles de classe construites pour des enfants ou pour des moutons. Parce que vous sautez d'un niveau à un autre, il n'y a pas d'escalier, mais il vous justifie que ça n'avait pas été prévu. Vous avez des murs qu'à vue d'œil, vous trouvez qu'ils sont tordus, mais on vous dit non, on devait absolument réaliser ce qui nous a été demandé. Comme ça, on a des prébendes plus importantes à se partager. Je trouve cela absolument douloureux et inacceptable. Donc là, il y a un travail à faire, qui est un travail de sensibilisation, de réarmement moral.
Monsieur Kuben, c'est une réalité que vous vivez au quotidien. Trop d'argent laissé dans les dessous de table.
Tout à fait, madame. Nous avons gagné un marché. Il faut être parrainé, par exemple. Ici, monsieur l'honorable va dire, ok, voilà le marché, je vais vous faire gagner. Autrement dit, étant donné que monsieur l'honorable est sur un créneau auquel il a la vision, qu'il y a plusieurs marchés qui se profilent, peut se faire créer l'entreprise par un ami ou un membre. Et ce sont ces entreprises qui viennent en concurrence de nous qui nous sommes installés par déontologie. Et quand l'ingénieur de l'État vient contrôler, ils savent que c'est l'un de leurs.
Honorable, est-ce qu'il y a des normes ?
Oui, il y a des normes. Le problème, c'est que nous avons la meilleure réglementation dans notre pays. Mais est-ce que nous les mettons en œuvre ? C'est pour ça que j'ai interpellé tout à l'heure les ingénieurs de l'État. Il y a toute une agence de normalisation. Et cette agence de normalisation a édicté des normes pour les matériaux de construction, que ce soit les tôles qui doivent avoir telle ou telle autre épaisseur, telle longueur, etc. Tout cela existe. Maintenant, nous avons un laboratoire de contrôle comme le Labo Génie.
Qu'est-ce que ça fait le cahier de charges ? On travaille sur la base d'un plan. Cela devait être sanctionné. On ne devrait même pas arriver au niveau des escaliers à la réception sans avoir contrôlé la qualité du béton. Ça ne coûte pas grand-chose.
Il appartient à l'État de jouer pleinement son rôle. Nous avons tous les instruments pour nous assurer d'avoir les meilleures constructions possibles dans ce pays, mais nous passons à côté, soit parce que par un pas du gain facile au détriment des uns et des autres, soit même parce que nous sommes inconscients ou enfin parce qu'on est incompétent.
Qu'on arrête donc de montrer du doigt les entrepreneurs et que chacun prenne ses responsabilités.
Les entrepreneurs ne sont que des exécutants. Et quand moi j'ai décrié tout à l'heure le problème de cotation, si un entrepreneur ose travailler sans cahier de charge, Ça ne dépend pas de l'entrepreneur. Ça serait un charlatan. La responsabilité, c'est une responsabilité du système du marché public. Je voulais interpeller ici l'État à dire qu'il faut au préalable étudier des marchés et ne confier le contrôle. C'est depuis le terrassement, depuis l'installation du chantier, dans notre cahier de charges, nous avons stipulé au moins sur 8 chapitres avant la réception d'un bâtiment. Et sur 8 chapitres, il doit y avoir 8 descentes sur le terrain où nous parlions de sous table. Parce que quand vous avez gagné, par exemple, le mètre cube à 250 000 francs, et quand vous faites vos analyses, il y a le problème d'équipement, le problème d'installation, et que vous on vous demande de faire une descente financée par l'entreprise et qui, au préalable, n'était pas
comptabilisée.
disais au préalable, voyez-vous qu'on doit essayer de chercher à
la compensation.
Où est-ce qu'on va trouver la compensation? Et alors, s'ils trouvent leur gang de cause, naturellement, on va abréger et fermer les yeux sur l'un ou des autres chapitres. Donc, vraiment, tout ce que je voulais décrire ici, c'est un problème de citoyenneté.
Merci, monsieur, d'avoir animé la discussion pour une meilleure exécution du budget d'investissement public au Cameroun. C'était dans le duel de dimanche midi.
Permettez-moi également de vous dire merci à vous, Berthe Mbala, et à vos invités. Rendez-vous dimanche prochain.
Le courrier de dimanche midi.
Et c'est le moment d'accueillir Djamou Haman pour découvrir vos réactions et suggestions, mesdames, messieurs. Le dossier de la rédaction consacré ce dimanche aux réseaux sociaux a visiblement mobilisé du beau monde.
Plus de 500 personnes ont visité la page de dimanche midi. 23 personnes ont signalé aimer le sujet et plus de 10 personnes ont laissé un commentaire. Pour la plupart des internautes qui se réclament déjà de la grande famille de dimanche midi, tous ont apprécié le sujet principal traité dans cette édition. La dérive sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est un sujet intéressant, voire très intéressant, parce que très actuel et très complexe à aborder. L'internaute Tafida Souleymane suggère une réponse effective des pouvoirs publics pour contrer les fausses allégations distillées sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'État camerounais doit disposer des mécanismes permanents de riposte sur les réseaux sociaux en créant un espace d'échange et d'information où l'internaute pourra, en temps réel, venir s'abreuver à bonne source. D'autres internautes, tout en appréciant la stature des invités qu'ils qualifient de mastodontes avec un véritable background, invitent ces derniers à plus de franchise et d'objectivité, c'est l'avis du moins de Sani Malam. La page Facebook de dimanche midi a ouvert un espace dénommé « Publication des visiteurs ». Ils sont une vingtaine à avoir souscrit. Tous apprécient la qualité du travail abattu par l'équipe de production de dimanche midi, tout en marquant leur fidélité pour cette émission dominicale de grande écoute. La page Facebook de dimanche midi ambitionne s'enrichit d'un espace vocal où les internautes pourront laisser des messages. Expérience qui sera prolongée très prochainement sur WhatsApp, une expérience plus vivante et innovante pour les auditeurs, ou plutôt les internautes up-to-date. Autre innovation en pleine expérimentation, c'est la possibilité de laisser un message vocal sur le 222 20 20 27 sur le serveur de la CRTV. Et ceci avant dimanche. Cette contribution va agrémenter les courriers des auditeurs. La page Facebook de dimanche midi et la ligne des auditeurs ont ouvert les barrières, supprimé les clivages et donné l'opportunité à tous de participer à la confection de l'émission en donnant simplement son avis.
Merci Djamou Amani. On reconnaît bien là les vertus des nouvelles plateformes de communication. Mesdames, messieurs, c'était dimanche midi.
Dimanche midi. Post-production Yannick Ayangma. Mise en onde Désiré Melingui.
Une réalisation de Agnès Sylviane Njama. Lolita Biloa.
Roland Saka. Vos remarques et suggestions sur le magazine et son contenu sont attendues au 222 20 20 27. 222 20 20 27. Et sur la page Facebook de Dimanche Midi.
Vous pouvez réécouter cette édition de Dimanche Midi ce lundi à partir de minuit et 5 minutes ou sur internet à l'adresse www.crtv.cm.
Dimanche midi vous a été présenté par Madeleine Sopikoto. Bon dimanche.